Cascodeur Podcast, épisode 139. Il n'y a pas de mauvais outils. Enregistré le 5 janvier 2016.
Désolé pour la qualité du son, on a eu plein de problèmes techniques, donc en gros j'ai fait ce que j'ai pu, bonne écoute quand même. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 139, joyeuses années déjà.
Bonne année, bonne santé.
2016, c'est la fête, j'aime bien les nombres pairs moi, donc je préfère.
C'est bicycle.
Pourquoi tu veux bosser un jour de plus au mois de février, c'est ça? C'est pour les quatre.
C'est pour les vieux. Non,
bonne
écoute,
année.
Je sais pas.
Excusez-moi, j'arrive un petit peu tard, mais j'ai un petit souci de micro, donc bonne année.
Ouais. Oh, ça aurait pu être pire, vu que t'es occupé, t'aurais pu faire bonne année en mars, toi.
Bonne Pâques.
De quelle année?
Donc, alors je sais pas si vous avez des résolutions, on en parlait un petit peu offline. Moi, c'est de retour au code un petit peu là. Je vais essayer de me forcer à dégager du temps, du coup à faire sauter d'autres choses. Donc, on va voir si j'y arrive. C'est déjà tendu, c'est la première semaine. Mais bon, on va voir. Je sais pas si vous êtes mis des objectifs.
Je garde la même résolution sur mon ordinateur. Grand classique. D'ailleurs, il y avait Commit Strip qui avait refait la blague justement de quelle est ta résolution, mais elle est pas mal faite. Et ma première résolution, c'est de me mettre à suivre mon plan pour le prochain marathon. Mais là, c'est pas du tout informatique. Mais sinon,
c'est
ouais.
Paris encore.
Ouais, Paris. Ouais, donc là
tu vas faire le semi un ou deux mois avant.
Non, là je me suis pas mis sur le semi parce que je m'étais mis peut-être un peu trop la pression sur le semi et du coup j'ai eu du mal pour le marathon. Donc là je vais suivre un bon petit plan tranquillou. Et sinon, d'accord. Ouais, je vais essayer de remettre aussi un peu à coder parce que dans mon job je code plus ou presque plus du tout et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Et je vais peut-être me mettre à faire du Go. Il y en a plein qui se mettent à faire du Go. Donc ça devrait être fun. En plus du Groovy, évidemment. Voilà.
Il va peut-être falloir songer à renommer le podcast les castes non codeurs ou un truc comme ça si vous continuez les gars.
Non, c'est les cascodés.
C'est pas faux.
Les cascodés présentes.
Les cascodés, ouais. Les castes ont codé, les castes purs codé.
Et ben moi, je n'arrête pas le code, hein. Du code. Par contre, la résolution, c'est faire moins de web, moins d'HTML, moins de JavaScript, moins de CSS. Ça me stresse, je me sens pas bien. À chaque fois, je sors d'une mission, je sors en me disant, mais qu'est-ce que t'es nul, Antonio et tout. Donc, plus de web, je laisse ça aux autres. Et je veux faire plus de Java 8, plus de Go aussi, parce que je découvre Go.
Tiens.
Voilà, mais moins de web.
Je croyais que tu allais nous dire que tu voulais refaire des EJB.
Non, il va faire Go to...
Mais après, moins de web, tu peux quand même faire des API, mais moins de front-end, tu veux dire.
Oui, moins de front-end.
Enfin, ok.
Ah, déjà, c'est un peu caca, reste, non? Non, ça va.
Reste, mais pas mort. Long live, rest.
Yes. Bon, en fait, on a un épisode où il n'y aura pas de news, à part si vous avez vraiment 2-3 news clés qui vous ont marqué là depuis le dernier épisode.
Bah, surtout le décès de Ian Murdoch de Debian, qu'on a appris il y a quelques jours. Voilà, moi, ça m'a un peu. Bon, voilà.
Monsieur. Tu peux expliquer qui était ce monsieur, hein?
C'est le créateur de la distribution Linux Debian, donc qui avait rejoint Docker, je sais plus, il y a quelques mois, il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc a priori une histoire un peu sombre de police qui l'ont un peu harcelé, et voilà. Et donc il aurait mis fin à ses jours.
Un ancien Sun aussi, hein.
Oui, tout à fait. Et donc, il était surtout connu en tant que, en tant que créateur de la distro Debian.
Ouais, parce que c'est un des rares projets 100% communautaire, je dirais même communautaire individuel, c'est-à-dire que c'est pas comme Apache où il y a par exemple quand même pas mal d'acteurs commerciaux qui se mettent ensemble, et pas que, hein, mais qui se mettent ensemble pour travailler. Debian, j'ai l'impression, moi je suis pas trop près non plus, même si j'utilise beaucoup leur distribution, ça a l'air d'être du pur communautaire 100%, et c'est un des rares qui a bien marché. Donc voilà.
Et en fait, dans Debian, le Yann à la fin de Debian, en fait, c'était son prénom, du coup. J'ai découvert ça aussi, Deb Yann. Alors le Deb, je sais pas ce que ça veut dire par contre. Mais... Ah, c'est vrai.
Sa compagne, parce qu'ils l'ont créé à deux.
Ah, je savais pas.
C'est la petite copine qu'il avait à la fac qui s'appelait Deb de Déborah.
Debbie, Déborah,
ils
d'accord.
Ils se sont mariés, ils ont eu des mots, ils ont divorcé après, mais voilà, donc c'était Déborah et Yann.
Waouh, c'est beau ça.
Ah, d'accord, c'est marrant.
C'est mignon.
Ouais.
Et sinon, comme autre news, peut-être le JDK 9 qui sera pas là avant 2039, pour que ça rime avec 9.
Pour qu'il y ait Jigsaw dedans.
le puzzle est long à assembler. Mais il a quand même réussi, hein, Mark Reinhold, à faire un puzzle, un Jigsaw. Celui qui lui a été offert à Devox. Mais c'est le seul qu'il a réussi à faire jusqu'au bout et dans les temps. Enfin, il lui a quand même fallu plusieurs mois, mais quand même. Voilà.
J'ai rêvé.
Tu pourrais tweeter, ça tient.
Ouais.
Au moins, t'auras fait un puzzle,
sinon t'auras
fait un
pixel. Ouais, j'ose pas. Il va se venger. Ouais.
Moi, j'ai déjà perdu des morceaux de puzzle de Noël et on a des trous déjà.
C'est ton chien qui l'a bouffé.
Qui vient juste d'arriver. Bref.
Voilà.
Ouais, sinon, il y a eu plein d'autres news, mais voilà, vous allez souffrir le fait qu'on fasse pas de news. Et ce qu'on va faire plutôt, c'est décrire les outils que nous, on utilise au quotidien et décrire peut-être un peu le contexte, le comment, le pourquoi là-dessus. Donc on l'a découpé en un certain nombre de catégories et puis on va passer les uns les autres sur les outils qu'on utilise. Donc on va commencer sur les méthodologies. Alors on a été fait en 2-3 morceaux, mais donc le premier c'est l'organisation du temps, ô combien difficile, en tout cas pour moi, je sais pas vous. Alors moi, je sais pas si vous savez, mais je me suis mis à une méthodologie qui s'appelle Getting Things Done, qui n'impose pas d'outils particulièrement. Simplement, il y a une notion de mettre les choses en référence. Donc en général, dans un carton, vous classez vos papiers avec dans des pochettes bien labellisées pour pouvoir retrouver. En général, vous hésitez entre un ou deux mots-clés pour retrouver votre papier, donc c'est pas mal rapide. Et puis, toutes les idées ou les tâches que vous avez à faire, vous les mettez dans ce qu'ils appellent un panier d'entrée, une inbox. Et puis, régulièrement, vous traitez cette inbox-là et soit vous avez rien à faire, soit ça prend 2 minutes et vous le faites tout de suite, soit ça prend plus et vous le classez à ce moment-là en objectif. Et puis après, vous mettez une liste d'actions pour arriver à cet objectif-là et vous les exécutez l'un après l'autre. Et donc moi, j'utilise un outil qui est sur Mac, mais qui s'appelle OmniFocus pour implémenter Getting Things Done. Et l'avantage que j'ai moi, c'est que il me suit partout puisqu'il c'est sur Mac, c'est synchronisé avec mon téléphone et c'est synchronisé avec mon iPad. Donc où que j'ai l'idée ou la tâche à faire, je la mets dedans, que ça soit pro ou perso, je mets ça dedans et comme ça après je le traite. Et en fait toutes les semaines vous faites un traitement de vos tâches pour savoir celles qui sont les plus importantes, mettre à jour les actions et puis vous savez ce que vous devez faire dans la semaine, en tout cas ce qui est le plus important à vos yeux. Et pour compléter pour la notion de référence, donc j'ai effectivement un carton avec des papiers et des chemises classiques, mais j'utilise aussi beaucoup Evernote pour toutes les références que je veux garder, soit des liens vers des pages web, soit tiens comment installer tel serveur ou tel système ou mon numéro de licence X ou Y, ce qui fait que je sais que j'ai deux endroits à chercher, l'endroit physique ou l'endroit logique qui aujourd'hui est Evernote. Et Evernote, pareil, personnellement, j'aimerais bien utiliser un autre système qui soit pas forcément dans le cloud, mais l'avantage, c'est que ben c'est sur mon téléphone, c'est sur mon ordinateur, c'est partout et immédiatement. Donc, c'est bien pratique.
Ouais, moi pareil, moi je suis un utilisateur de Evernote pour justement en tant que panier, donc je note mille et un trucs. Par contre, après, lorsque je me mets une tâche, j'utilise le calendrier de Google en fait. Donc je suis un gros utilisateur de Google Calendar. Quand je mets une tâche, je sais que je pourrais la faire dans une semaine, je mets un reminder avant, je les déplace, etc., etc. Donc, Evernote pour tout ce qui est idée et Calendar pour suivi, en fait.
D'accord.
Moi, du coup, oui, c'est vrai que j'utilise aussi le calendrier, Google Calendar en particulier pour avoir des reminders, quoi. Ça, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des petites alarmes, etc. Donc, j'utilise aussi bien pour des rendez-vous, des fois, que pour des tâches. Mais c'est vrai que, alors, j'utilise aussi Trello. Enfin, j'ai essayé. Je l'utilise pas forcément de manière consistante et régulière, mais je m'étais fait plusieurs colonnes, plusieurs lanes dans Trello. Par exemple, pour le boulot, pour des tâches perso, ou pour faire des fois surtout quand on manage des gens, des fois un peu du follow-up pour suivre ce que quelqu'un fait. Et pour me rappeler, ah oui, ça j'avais dit à telle personne de faire ceci. Enfin, quand c'est pas des tâches, par exemple, de développement où je peux utiliser Jira, par exemple, hein, pour des choses, tiens, tu pourras faire telle chose pour moi, et ça me permet de pas oublier. Donc je mélange ça aussi avec Google Keep, des fois quand c'est... Alors c'est peut-être plus des idées, mais des fois c'est aussi des tâches que je mets dans Google Keep. Et sinon, je reste quand même beaucoup... J'ai essayé plusieurs outils, mais c'est vrai que je reste toujours quand même beaucoup bloc-notes, papier, stylo. C'est vrai que ça marche bien pour moi. Alors après, c'est vrai que des fois, quand c'est des idées que j'ai le malheur de noter sur un bloc-notes, il va falloir que je retrouve sur quel bloc-notes c'est, en espérant que mes filles aient pas gribouillé sur les pages, tout ça. Mais des fois, j'aime bien quand même le contact du papier, utiliser un vrai stylo pour noter des idées, pour brainstormer, pour me faire mes to-do list pour, en fait, c'est vrai que je mélange un peu organisation du temps et organisation des idées, mais c'est quand même assez lié. Et c'est vrai que j'aime bien avoir ce contact avec le papier, et puis, quand j'ai des tâches juste pour la journée, tous les outils que j'essaye, que ce soit Trello ou autre, j'ai du mal à, comme dans le Getting Things Done, où tu as vraiment les prochains trucs que tu vas faire là, style dans ta journée. J'aime bien pour ma journée, je me dis, ah oui, bon, je vais faire ça, 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 ça et ça, et je me prends une nouvelle feuille et je mets des cases à cocher et je les coche, quoi. Mais ouais. J'aime bien quand même le papier, quoi. J'ai toujours du mal, même si j'ai un iPad, tout ça, j'ai du mal avec les outils.
Moi, j'aime bien aussi, mais c'est effectivement tellement galère de retrouver... Enfin, j'ai l'impression que mon papier, c'est du write only, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vrai que je me force à le mettre en comment on appelle ça, en numérique pour éviter ce défaut. Mais j'aime bien le papier. Mm-hmm.
Alors moi, je suis indépendant, donc je fais ma compta, je fais mes déclarations à l'URSSAF, ma déclaration RSI, ma déclaration TVA, machin. Je ne supporte pas le papier, le poids, je déteste ça, donc.
Tu préfères la soie et la dentelle.
Un outil que j'utilise énormément, c'est mon scanner. Donc, je reçois un courrier, je le scanne, je le mets sur Dropbox et je jette le papier. Je déteste le papier, je n'ai pas de papier sur mon bureau. Je déteste ça.
Et t'as un scanner qui fait recto verso et plein de feuilles ou
40
pas
pages à la minute, recto verso, un truc de malade.
C'est bien ça.
Ça débite.
Ça donne la référence.
Le Canon Image Formula PRC125W. Donc il est en Wi-Fi, mais il est en Wi-Fi, il est un peu plus long. Donc vous avez le DRC125 et le DRC125W. Et lorsque vous le connectez en USB, il fait 40 pages à la minute recto verso. Donc, ce que j'ai fait avant et maintenant moins, c'est que j'avais ma pile de factures de PDF et je mettais 60 feuilles et je scannais tout. Et maintenant, c'est au compte-goutte. Donc, je reçois une lettre, je la scanne et je la jette.
La difficulté, c'est de nommer les fichiers et de les classer après correctement dans Dropbox, c'est ça ?
Année-mois-jour-société-2021 tiret le sujet. Donc je suis assez fort.
Alors moi je jette pas les papiers, mais je fais comme toi, c'est-à-dire que par défaut c'est sur un disque backupé et pareil année. Alors je mets pas des tirets moi, je mets année, mois, jour. Et après c'est plus le bordel, mais je vais peut-être faire comme toi, société et sujet. C'est pas mal. Bon, par contre, il faut des classements, genre ça c'est la finance, ça c'est je sais pas.
Ouais, c'est ça, ouais, par catégorie de, d'interlocuteurs ou de documents, etc. Les factures dans un coin, les licences d'un autre, etc. etc. Ouais.
Pour ceux qui sont obligés de faire des comptes rendus d'activité ou qui veulent savoir où leur temps passe, moi j'utilise encore Toggle, T-O-G-G-L. C'est un truc en ligne.
Ouais, Toggle toi-même. Hein.
Toggle toi-même, voilà. On définit par une tâche, ensuite on la met dans un projet et puis on peut mettre des tags. Donc moi j'ai un tag, donc je fais partie du CFP d'Evox, donc j'ai un tag d'Evox, j'ai un tag les cascodeurs, j'ai un tag perso et j'ai un tag pro. Et du coup j'ai des sujets, donc c'est plutôt, j'ai arrêté de suivre le temps que je passe en perso, mais c'était un truc que j'avais fait pendant quelques mois qui était intéressant. Mais au niveau boulot et au niveau cascodeur, comme ça je sais à peu près le temps que je passe, voilà. Je pourrais arrêter, mais je trouve ça intéressant. Je vais réfléchir. Mais pour les gens qui doivent le faire, c'est intéressant. Surtout qu'après, ils ont une API et puis donc ça me génère c'est un CRA interne que je fais moi-même, mais ça me le génère tout seul. C'est pas mal.
Mais en fait, pour les cascodeurs, Emmanuel, il notait le temps parce qu'après, il nous refacture à nous parce que nous, on fait pas le mixage.
C'est ça. C'est ça.
Enfin, il a essayé plein de fois, mais ça n'a jamais marché. Donc.
Et bah, du coup, on en est aux huissiers. du coup, c'est pour ça qu'on se parle que par Skype parce que. Voilà, bon, on va revenir un peu plus proche du code et de l'informatique. Qu'est-ce que vous utilisez en termes d'infrastructure? On a oublié. Organisation des idées, donc Guillaume, il a... Guillaume et Antonio, vous utilisez Trello.
C'est moi qui ai un peu mélangé.
C'est quoi vos colonnes, du coup? C'est en gros un projet ou une...
Donc j'ai une to-do list toute bête. Après, j'ai des colonnes pour les follow-up. Des fois, j'ai des trucs un peu plus spécialisés, par exemple par projet ou produit sur lequel je suis. Ou des fois, s'il y a des, par exemple, je sais pas moi, des idées de features ou de projets ou sujets à défricher, j'ai une autre colonne aussi un peu pour ça, un peu une sorte de dump général.
Parce que j'ai jamais vraiment essayé pour de vrai Trello, mais moi, pas te dire là, mais j'ai 4-5 pages de projets.
Ah ouais.
Et dans les projets, il y a plusieurs actions. Projet au sens getting things done, récupérer de l'espace disque, récupérer, scanner les trucs bancaires, mm-hmm. Peu importe. Et du coup, j'imagine pas en avoir des colonnes jusqu'à là.
Faut les limiter, sinon après, c'est pas gérable.
Ouais.
Mais même la longueur aussi de la colonne, faut que ça reste gérable en fait.
Non, ben moi j'ai la plupart de mes Trello, de mes projets, c'est à faire, c'est idée en cours à faire. Mais on en a pas mal pour DevOps où on a des colonnes, on en a une vingtaine de colonnes, parce qu'on utilise ça comme suivi. On a contacté tel client, il nous a répondu, on l'a relancé. On lui envoie le contrat, il a pas répondu, etc., etc. Donc on a tout un workflow, mais je vous avouerai que c'est un peu compliqué parce que il y a trop de colonnes. On en a eu une vingtaine et on s'y perd un petit peu. Donc en plus on met des couleurs. Enfin bon, voilà. Donc Trello pour des choses simples c'est bien. Pour des choses plus complexes peut-être qu'on l'utilise mal, mais on l'utilise maintenant depuis quelques années, et c'est vrai que le suivi de client, imaginez, j'ai rencontré tel client, etc., etc., c'est pas facile parce que on a trop de colonnes, en fait.
Et c'est là que Nicolas arrive. Non, Antonio, t'as complètement tort, ça marche très bien, juste tu fais pas l'effort.
Ça, c'était Slack.
C'est vrai. Ok, bon, on va en reparler d'ailleurs. Donc, on va parler de l'infrastructure, notamment du système d'exploitation, etc. Ah oui, non, j'ai encore oublié. Pour l'organisation des idées, mon dernier truc, je vais y arriver, c'est Xmind. Donc, c'est un outil de mind map. Vous pouvez utiliser d'autres, mais ça m'aide vraiment à défricher des idées. Quand je veux faire une présentation à quelqu'un sans vraiment avoir des slides nécessairement, j'utilise ça. Des fois même, je le projette. Ça aide les gens à voir un petit peu l'univers de quoi on parle en idées, sous-idées, etc.
C'est vrai que je l'utilise aussi de temps en temps. C'est quand même pas mal, un bon vieux mind map.
Tu peux le faire sur papier, mais c'est un peu plus pénible parce que tu peux pas déplacer les trucs.
Ouais, c'est clair.
Il faut une gomme.
Et je l'ai utilisé dans différentes occasions, même par exemple pour faire aussi même un site map, le plan d'un site par exemple. Ouais. Même pour ça, c'est pratique parce que typiquement, tu vois, c'est arborescent. C'est bien de pouvoir zoomer en fait finalement sur de plus en plus finement plus tu t'éloignes du centre, c'est pratique.
Ouais.
Et je l'utilise même aussi moi pour les comptes rendus. Donc on fait un meeting et chacun jette différentes idées et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Moi je suis très manuel.
Ouais. Après l'export est un peu difficile en fait. Je trouve, moi, parce que soit t'exportes en images, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus pénible à naviguer, puis tu peux pas refermer les zones. Voilà, en termes de consommation, si t'as pas l'appli native, c'est un peu plus pénible.
Un truc qui est super avec Xmind, c'est que on peut le faire, effectivement, on peut organiser les idées en étoiles, mais on peut les mettre aussi en arborescence. Et ça me permet d'écrire, voilà, lorsque j'écris un livre, lorsque j'écris un cours, lorsque j'écris une formation, où on a besoin de savoir qu'on va parler de la technologie X avant Y, mais après Z, ça me permet de bouger et de me dire, en fait, j'utilise Xmind pour faire mes index. C'est vraiment pas mal. Donc, on organise les idées, en fait, avec une notion de temps. Je parle avant de ça, puis de ça, puis j'explique ça. Et Xmind m'aide énormément.
D'accord. Bon, ça y est, on passe à l'OS.
Et j'avais rajouté... Non, mais parce que je savais pas dans quelle section classer ça, les outils. Alors, c'est des idées aussi, dans un certain sens, mais les mock-ups, par exemple, d'écran, les mock-ups de n'importe quoi, d'une appli, tu mettrais ça dans quelle catégorie? Et j'avais mis ça du coup.
Je l'ai mis après, mais on peut en parler maintenant.
Ah, d'accord.
Ouais, j'utilise aussi Balsamiq.
Ah, mais j'ai pas vu. Pardon. Mais on en parle maintenant? Ou pas?
Ouais, okay. Ouais.
Et donc pour moi, en fait, c'était aussi, quand on a des fois c'est des idées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait représenter visuellement cette feature-là, comment les utilisateurs pourront interagir avec elle, etc. Et en fait, on a souvent besoin de faire des mock-up d'écran, de boîtes de dialogue, etc. Et en fait, j'ai utilisé deux outils. Alors Balsamiq, que je connaissais depuis longtemps, en partie d'ailleurs grâce à mon ami Louis Arias, que vous connaissez sans doute, et aussi un autre outil que j'ai utilisé, Mockups, qu'on a utilisé au boulot là, par exemple, qui fonctionne bien, par exemple pour le travail en équipe. On peut être à plusieurs sur, enfin Balsamiq doit le faire aussi d'ailleurs, mais j'avais pas utilisé Balsamiq dans ce cadre-là. Mockups qui permet aussi donc de partager un design en équipe, de rajouter des commentaires, etc. Et je trouve ça super pratique, plutôt que des fois on faisait des gribouillis sur une feuille et puis on se les scannait, on les mettait dans un Google Doc et tout, et puis ça servait un peu de spec pour une nouvelle feature. Mais du coup, avoir un truc un petit peu plus clean, même si ça garde le style un peu dessiné, quoi. Je trouve que c'est vraiment plutôt sympa comme outil. Donc Balsamiq et Mockups. Mockups, Mockups.
Ouais, c'est en ligne, ça.
Ouais, en ligne. Ouais, les deux sont en ligne. En je crois pas qu'on puisse les utiliser.
Balsamiq, il y a une version.
Ah, si, il y a une version. D'accord.
Aussi. C'est basé sur Flash.
Ouais, quoi. C'est sur Flash.
Adobe,
ouais.
Air,
ouais.
Un truc comme ça.
D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que ça va donner du coup avec Flash is dead, long live, je sais pas.
Ouais. Bon, il y a Antonio qui avait mis qu'il utilisait ces outils, mais maintenant c'est fini puisqu'il va plus faire de web.
Alors, Balsamiq, je l'ai même utilisé pour faire une presse. C'est pas mal parce que quand vous faites une presse sur une techno, soit on fait des Hello World, voilà, le point A, le point B, le point C. soit on peut dire, ben voilà, dans tel écran, dans telle appli, on peut utiliser cette techno dans tel endroit et dans tel autre. Et Balsamiq, vu que je sais pas faire du web, mais ça me permet de, voilà, de montrer aux personnes ce que pourrait être une application. Donc, je l'utilise même pour mes prêts.
D'accord. Sinon, alors, ça y est, infrastructure et système d'exploitation.
Enfin.
Je vais lister ce que j'utilise. Je vais peut-être m'arrêter sur une ou deux applications pour détailler, mais sinon, je vais essayer d'aller vite et puis après, je vous laisserai faire les vôtres. Donc, je suis sous macOS 10, la dernière version. Donc, j'essaye en général d'être toujours sur la dernière version. Alors bon, bah des fois c'est peut-être un peu moins stable ou je sais pas quoi, mais au moins on a les bugs de sécurité en dernier, on se pose pas la question, on n'a pas une notification qui reste pendant des années avec mettre à jour s'il vous plaît, etc. SSD, c'est le bon. Alors maintenant ça fait quelques années, mais ça reste l'outil qui a un peu changé ma vie en termes de fluidité de mon ordinateur et de mon flot de travail. Quand je suis au bureau, j'utilise un truc qui écoute le Bluetooth de mon téléphone, et quand le Bluetooth de mon téléphone est un petit peu trop loin, eh ben il lock l'ordinateur. Alors avant j'utilisais Proximity, maintenant ça marche pas trop bien avec la dernière version de macOS, il faut le recompiler à la main et tout, c'est chiant. Donc là je teste HandyLock, HandyLock. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, notamment qui rouvre votre session quand vous vous rapprochez. Moi, je fais pas ça parce que, en gros, ça veut dire que c'est pas le système d'exploitation qui lock. Et le système d'exploitation, quand il lock, en tout cas sous macOS, il détruit les clés de cryptage. Si vous avez votre disque dur crypté, voilà, il fait un certain nombre de choses où il éteint l'accès direct à la mémoire, etc. Donc ça, c'est un peu plus sécur de locker vraiment l'ordinateur. Voilà, DaisyDisk pour avoir, c'est sous macOS, la liste des, la taille des fichiers sous forme de ronds concentriques de plus en plus détaillés. C'est comme ça, on peut zoomer sur ce qui prend beaucoup d'espace et essayer de trouver pour l'enlever. C'est un problème que j'avais plus quand on avait des disques durs qui tournaient, mais avec les SSD, c'est un peu plus cher le gigaoctet, donc c'est un peu plus compliqué.
Moi, j'utilise OmniDisk Sweeper pour ça.
D'accord.
Même type d'outil, mais au lieu d'être des, toi tu me dis c'est quoi, c'est des ronds, bah moi ça va être juste une arborescence du file system avec qu'est-ce qui prend de la place, enfin les grosses tailles des répertoires.
C'est graphique un petit, enfin il y a une vue graphique genre où c'est genre il dit 37% et.
Non, t'as la taille exacte de chaque répertoire, il scrute tout ton disque. D'accord. Il te fait une représentation graphique des répertoires avec tu peux après zoomer, enfin rentrer dans chacun des répertoires et voir ce qui prend la place, etc.
Après,
et puis supprimer les répertoires en question qui te gênent.
Pour mes mots de passe, j'utilise alors je suis un peu old school, j'utilise KeePass, alors version X parce que c'est la version qui tourne sous macOS. SkyPass sur mon téléphone, et puis je copie le fichier régulièrement, et donc c'est en lecture seule sur mon téléphone et c'est en écriture lecture sur mon ordinateur. Et voilà, je sais que vous utilisez potentiellement d'autres
approches. J'aime bien Dashlane, pour mes mots de passe, qui fonctionne bien partout, surtout que ce soit Android, iOS, mon Mac, etc. Donc moi j'aime bien. Peut partager aussi du genre avec sa femme un mot de passe ou un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup ça, ouais.
Ouais. Ma femme, je l'ai convertie à One Password, je crois. Parce que pareil, elle faisait toujours j'ai perdu mon mot de passe. Voilà, puis bon, il y a une ou deux fois où ça n'a pas bien marché, donc maintenant elle est convertie. Ouais.
Faut que je fasse la même chose, elle m'a fait le coup la dernière fois, elle a bloqué ses mots de passe et ensuite, comme elle s'est trompée, elle a bloqué aussi mes mots de passe d'Apple. Donc effectivement, je pense que je vais vite aussi la former à Dashlane comme moi ou OnePassword.
Alors, pour mon calendrier, j'utilise Apple Mail avec derrière soit le truc du boulot qui est Zimbra en l'occurrence, soit les trucs d'Apple, là, donc iCal. Les serveurs iCal. Donc ça, j'ai les deux.
Google Calendar.
Google Calendar, là, de ce que je comprends.
Ouais,
mais moi, j'utilise quand même l'appli mail de calendrier.
Calendrier, tu veux dire. Ouais, Calendar, ouais. Ouais, ça, mais j'utilise
ouais,
ça aussi.
Oui, l'appli Calendar, ouais. C'est ça. De Mac. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup hein, les applis Mac par défaut quand elles suffisent. J'utilise ça. Tout à l'heure, vous parliez pour prendre les notes, etc. Moi, j'utilise le simple outil de notes de macOS qui synchronise sur iOS, etc. Et Reminder pour les tâches. Donc, effectivement, ouais. Sans en être comme Emmanuel à faire du GTD, même si j'avais testé à une époque. Mais je gère toutes mes tâches aussi là-dedans pour essayer.
Alors, maintenant, voilà. Ça va mieux. Pour ce qui... Dans le passé, les notes, ils m'avaient un peu synchronisé dans DevNull un certain nombre de notes. Donc, j'avais arrêté l'utiliser.
Oui, alors j'ai quand même eu des trucs bizarres, effectivement. Après, j'en fais, voilà, c'est pas énorme comme. J'ai pas 3 milliards de notes. Hein, c'est pas...
Au niveau des mails, j'utilise deux choses. J'utilise Apple Mail, notamment pour quand il faut chercher ou quand je suis fatigué de taper avec les doigts et je veux utiliser la souris. Sinon, j'utilise Mutt plus Offline IMAP plus MSMTP qui est en ligne de commande. On en parlera après. Du coup, j'ai mes emails et je peux les traiter plus rapidement, j'ai l'impression. Donc, ça me permet de me focaliser et de les descendre plus rapidement.
Ouais, moi, j'ai essayé plein de trucs, mais au mieux, c'était sur le téléphone. J'utilisais... comment il s'appelle celui qui permet de... Alors, je sais plus, ils l'ont arrêté, je crois. Qui permet de facilement trier les...
Sparrow, non, c'était pas ça.
Non, c'était Mailbox, pas Sparrow, c'était l'autre. C'était Mailbox, je crois.
Ah oui, ouais, c'est Mailbox. Aussi. C'est de Dropbox, enfin, qui avait été racheté dans Dropbox.
Ouais, je crois que c'est ça, celui qui a été arrêté. Et Google en a fait un similaire maintenant, qui est Inbox. Mais j'avais accroché, mais à l'époque, ils géraient pas le multi-compte pro, etc. Donc, j'avais pas continué. Depuis, ils l'ont rajouté, je me suis jamais remis. Mais non, finalement, j'arrive à être efficace qu'avec le Gmail classique à cause des labels, parce que je filtre tout, j'organise tout par label. Et donc, même le client mail Apple, j'ai essayé 36 millions de fois. Je m'y retrouve pas. Enfin, c'est
trop lent.
C'est lent, t'as pas les recherches, t'as pas les... Et puis les emails, comme c'est un mapping bête, bah tu les retrouves dans tous tes labels, mais c'est pas... Enfin, dans tous tes répertoires, mais c'est pas logique. Enfin, je sais pas, ça passe pas. J'ai pas trouvé autre chose que le client Gmail, mais c'est vrai que ça me gonfle d'utiliser un identificateur pour ça, sachant que ça prend quand même pas mal de ressources, hein, ces cochonneries-là.
Ah, moi, je suis devenu un pro de la recherche, de la syntaxe de recherche Gmail. Donc moi c'est Gmail du matin jusqu'au soir et c'est vrai que il y a une syntaxe où on recherche from Pierre tout Jacques telle année etc et donc en ligne de commande j'arrive à trouver des vieux mails très très vite à les traiter avec un contenu en enlevant le contenu enfin et c'est vrai que mon compte Gmail il date de 2004 et j'ai retrouvé mon tout premier mail là pour le deuxième anniversaire. Enfin, c'est carrément génial quoi. Tout est stocké, tout est historisé, on retrouve tout. Enfin, c'est vraiment génial. Moi je suis fan de Gmail.
Yes. Pour l'enregistrement audio, pour la capture audio sur la machine, j'utilise Audio Hijack. Alors bon, je suis un peu moins fan de leur dernière version, pour être honnête, qui permet de faire des workflows très compliqués que là je suis en train de tester, donc j'espère qu'on va pas perdre l'enregistrement. Mais voilà, mais qui est plus compliqué que celle d'avant, donc j'aime un petit peu moins.
Mais c'est comme Audacity. Enfin,
non, Audacity, c'est vraiment bon. Audacity, c'est principalement un éditeur de son. Là, moi, j'utilise Audio Hijack de manière assez compliquée puisque j'enregistre le flux qui vient de Skype, c'est-à-dire vos voix à vous. J'enregistre localement mon son. Là, il se trouve qu'ils ont un truc qui enlève le bruit de fond, donc j'enregistre aussi après à la sortie du bruit de fond. Et puis je merge la truc qui est sorti du bruit de fond avec ce qui vient de Skype pour faire l'enregistrement de backup au cas où l'un de vous plante complètement son enregistrement ou un truc comme ça.
Voilà. Ça nous arrive jamais.
Du coup, ça enregistre trois fichiers en même temps. Le truc source de moi, le truc avec Skype final avec tout le monde et le truc que normalement je vais utiliser qui est le truc filtré de moi et après je vais prendre vos sources à vous. Et je vais te faire ma popote.
Eh ben,
donc c'est compliqué, comme workflow. Je ferai une image. C'est un métier, voilà.
C'est pour ça que nous, on laisse ça aux professionnels comme toi.
Voilà, c'est ça. Voilà, sinon pour FTP, j'utilise CyberDuck ou alors le FTP en ligne de commande quand j'ai scripté les trucs. Pour faire la visualiser du Markdown, j'utilise Marked, M-A-R-K-E-D. Là encore, je suis désolé, c'est tout ça, c'est du Mac. J'utilise un truc qui s'appelle PopClip, qui, quand je sélectionne un texte, me propose de rechercher sur Internet, de le copier, de le rajouter dans OmniFocus. S'il reconnaît que c'est un que c'est en forme de Jira, genre HHH-quelque chose, et ben il va aller direct sur le Jira d'Hibernate. Donc ça me permet de, en gros, notamment pour les Jira qui sont dans des textes et qui sont pas en autocomplétion, enfin qui n'ont pas un lien, une URL, ça me permet de le voir tout de suite et de cliquer. Et ça marche partout, y compris dans le terminal, donc je peux sélectionner les choses et le... Donc c'est pas mal, c'est pratique ce petit truc, PopClip, P-O-P-C-L-I-P. Pour les images, j'utilise Seashore, S-E-A-S-H-O-R-E, c'est un Photoshop moins, mais ça marche bien. J'utilise encore TrueCrypt pour encrypter certains, enfin les disques que je file à mes parents, parce que j'ai pas confiance. J'utilise VLC pour les audios, ça c'est normal. J'utilise YubiKey parce que nous on a un one-time password où il faut taper son mot de passe et le token qui est généré unique à chaque fois. Donc je me suis acheté une petite YubiKey, ça me permet de pas avoir à ouvrir mon téléphone, regarder les six chiffres, taper les six chiffres. Donc c'est un petit peu moins sécure, mais c'est beaucoup plus rapide. Et Time Machine pour sauvegarder ma machine au cas où. Donc j'ai des scripts AirSync avec un script intelligent pour backuper, mais au cas où j'ai toujours le Time Machine qui me permet de revenir à un instant très proche du passé, et puis ça marche tout seul, j'ai rien à faire, donc ça c'est bien pour éviter quand la machine est crash de revenir rapidement. Antonio, tu mentionnais Dropbox, toi tu l'utilises un peu comme ton...
Oui, nous on a l'offre pro Dropbox, donc 1,6 Tera, donc c'est mon slash de documents.
C'est 1 miles octet et ils l'ont transformé en 1,6 tera, c'est ça? C'est pour ça que c'est...
Donc c'est vrai que mon slash document sur mon Dropbox, à tel point que je mets mes repos Git, des repos bare, donc j'ai carrément mes points Git sur Dropbox. On est des gros utilisateurs de Dropbox. J'ai déménagé là il y a quelques semaines et j'ai retrouvé mes vieux NAS. J'ai récupéré les disques durs et je les ai mis à la poubelle parce que c'est vrai qu'avec Dropbox, voilà, j'ai plus ces soucis-là. Après,
ouais, enfin, faut une bonne bande passante aussi.
J'ai.
Voilà. Ah, c'est ça. Après, c'est ça.
Donc pour les gens qui habitent au cœur de Paris, c'est bon.
Les autres, un NAS, ça reste quand même pratique chez soi.
Oui, parce que maintenant, dans les nouveaux outils 2016, j'ai câblé mon appartement. Donc, ça va vachement plus vite que...
Ouais, ça fait la différence, oui.
Ça, c'est pas mal. Et puis, après, comme Emmanuel, je suis sur Mac OS X. J'ai deux Mac Pro, j'ai trois Mac Mini. Donc, tout ça en réseau, en plus maintenant, câblé, donc c'est la fête.
MacBook Pro, hein, pas Mac Pro.
Oui, MacBook Pro. Et puis SSD, voilà, parce que les derniers ils sont tous comme ça. Je suis vachement portable, mais quand j'arrive à la maison, j'ai un truc que j'adore, je suis super fan. C'est le HendGedocs, H-E-N-D-G-E-D-O-C-K-S. Et c'est un boîtier hyper smart où on ferme le Mac, on le clip dedans, et donc il se connecte à, j'ai un écran 27 pouces, il se connecte au filaire, au port USB, à l'enceinte, ça c'est plutôt pas mal. Donc sur le bureau ou à la maison, j'ai un grand écran, j'ai le HendGedocs où je mets le MacBook Pro fermé, et sur le bureau, j'ai un écran Mac et un trackpad Mac dans un autre HendGedocs. C'est-à-dire que c'est un bout de plastique où je clipe le clavier et le pad, et comme ça, rien ne bouge, tout est fixe. Donc voilà, c'est pour les petits bouts de hardware qui me servent pour Macintosh. Et puis après, Emmanuel a parlé de plein d'outils, j'utilise à peu près les mêmes. Je suis pas très Apple, donc je vais plutôt utiliser LibreOffice, GIMP ou VLC. Et pour les petits utilitaires Mac qui me sauvent la vie, j'ai SizeUp, SizeUp, c'est un petit outil qui vous permet de cliquer sur CTRL-ALT, commande droite, et de mettre votre écran à droite, commande-ALT, commande haut, et de mettre votre écran en haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et
puis, tu parles de la fenêtre, pas l'écran.
La fenêtre, pardon.
Ouais.
Et puis, comme le Finder Mac est vraiment tout pourri, j'ai Extra Finder, comme beaucoup, je pense. Donc c'est une petite surcouche au Finder qui me donne 4-5 écrans.
Qui le rend moins pourri.
C'est marrant, je me suis fait, moi.
En plus, ils ont amélioré quand même là, le Finder un petit peu, donc avec les tabs et tout ça. Et du coup, j'utilisais aussi Extra Finder. Finalement, j'utilise plus.
Ouais, j'ai arrêté aussi. Avec les nouvelles versions, maintenant, il n'y a plus grand chose. Enfin, voilà, les tabs, etc., que ça rajoutait, ils servent plus à grand chose. Enfin,
et le couper-coller, alors, vous faites comment, vous?
Je sais pas, pomme C, pomme V.
Et après, tu reviens pour les supprimer.
C'est pomme X, pomme V. Ouais.
Oui, pomme X, pomme... non, pomme X, pomme V, oui. Mais je sais pas. Non.
Pomme X.
Bien.
Et t'as pas fait de hack pour avoir le POMX, non?
Ah non. Ah non, enfin, je sais pas depuis quand ça marche, mais je crois que j'ai toujours fait POMX.
Non, c'est vrai que c'était peut-être pas. Hein.
Je sais pas. C'était peut-être Extra Finder qui me le faisait avant, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je l'ai plus et je fais toujours POMX.
D'accord. Ah, bah alors.
Sinon, avec peut-être... la souris, bien sûr, mais voilà.
Mais, il faudrait que j'enlève Extra Finder, voir si je peux faire tout ce que je veux.
Après, il faut mettre à jour. Enfin, voilà, après, ça dépend de quelle version de macOS tu as, si tu as la dernière ou pas. Je sais pas. Alors, quand est-ce que ça a été amélioré, tous ces trucs-là?
Ouais. Ouais. Sinon, tiens, on va parler un peu de hardware, parce que je sais que vous avez des vu que Antonio a commencé. Moi, j'ai effectivement aussi un grand écran à la maison. Je suis pas en dual screen. Je préfère un grand que deux moyens. Donc, j'ai un 20, avant, j'avais un 30 pouces, il est mort et ça se fait plus trop maintenant. Donc, c'est soit 27, soit 32, en gros. Et 32, c'était quand même beaucoup trop cher. Donc, j'ai pris un 27 pouces, Thunderbolt. Et du coup, je mets l'ordinateur, le portable sur le côté. Je le branche à la source, la source électrique. Je branche le câble Thunderbolt. Et puis, j'ai un petit truc qui s'appelle le Belkin Thunderbolt Express, qui reçoit du Thunderbolt et qui m'offre un certain nombre de ports, déjà qui après ressort et va à l'écran, comme ça c'est synchronisé, et puis qui a trois ports USB, trois ou quatre d'ailleurs, quatre ports USB, un port FireWire, voilà, donc c'est assez pratique quand vous avez des plus que un ou deux disques durs, parce que les Macs ont souvent deux ports USB, puis après c'était trop cher. Donc c'est pratique, déjà tout est connecté, donc mon micro il est connecté automatiquement, voilà, c'est pratique. Et puis j'ai une chaise normale et j'ai un bureau normal. Et trackpad, j'utilise pas de souris.
Touchpad et clavier aussi, Bluetooth, Mac. Par contre, moi, tu parlais justement de chaise normale et tout ça. Moi, j'ai une chaise Ikea et j'ai un bureau aussi normal. Mais par contre, je me suis quand même fait un bureau debout. Donc, je me suis acheté, des planches et tout ça, et je me le suis fabriqué moi-même. Et c'est réglable suivant la hauteur et tout qui me va bien, donc avec plusieurs planches, une pour que l'écran il soit à hauteur des yeux, et puis l'autre, enfin elle est pliable en fait, comme ça j'ai un peu plus d'espace et j'ai pas le nez dans l'écran, où en fait donc j'ai le clavier, le touchpad, et pour de sorte à ce que mon bras, enfin mon coude fasse un angle droit et que j'ai pas à appuyer en fait au niveau des poignets. Parce que je sais pas si ça vous l'a fait ou l'a déjà fait ou pas encore ou pas. Mais quand on est informaticien, qu'on utilise beaucoup la souris, qu'on appuie tout le temps nos poignets sur le rebord d'un bureau, le rebord d'un laptop, etc., qu'on casse un peu le poignet, au bout d'un moment, on a aussi des douleurs au niveau des, du poignet, du tunnel carpien. Et depuis que je fais ça, depuis que j'ai une meilleure position, ah oui, si, j'ai quand même aussi, quand je suis assis à mon bureau, là, comme aujourd'hui, là, vu que mon micro Yeti est accroché à mon bureau, j'ai aussi un petit truc pour surélever le Mac, le portable, pour qu'il soit plus haut. Et c'est pareil, ma chaise Ikea, là, je la monte le plus haut possible pour avoir les bras un peu à l'équerre, pour pas avoir à poser mes poignets. Et du coup, j'ai plus ou presque plus mal, comme j'avais à une époque.
Mais c'est parce que tu codes moins aussi.
Non, parce que non, même pas, parce que tu sais, tu tapes quand même beaucoup, hein, même quand t'es product
manager. Moi, le trackpad a changé la vie. Quand j'écrivais mon bouquin, j'ai eu ce problème. J'étais limité par ça. Et passer au trackpad et au Mac, qui était beaucoup plus fin que les autres ordinateurs à l'époque, hein, ce qui fait que le poignet cassait beaucoup moins. Ça a changé la vie. Pas la vie de mon poignet, en tout cas.
La vie de ton poignet, ouais, c'est ça.
Bon, sinon, je pense qu'on utilise tous Homebrew pour installer tous les petits trucs en ligne de commande.
Yes.
Ouais. On va passer aux IDE. Qu'est-ce que vous utilisez?
IntelliJ.
IDE avec un S ou A, l'IDE?
J'ai pas compris la blague.
Tout le monde utilise IntelliJ, bah, oui. Tu mets O aux IDE. Ah, IntelliJ.
Bah non,
mais j'utilise aussi des fois Vim quand même.
Ouais, moi j'utilise, alors j'utilise pas beaucoup Eclipse, mais j'utilise un petit peu. Du coup, j'ai le plugin Vim Wrapper avec un V. J'utilise notamment pour Celon, puisque l'IDE de Celon est sous Eclipse. J'utilise principalement IntelliJ IDEA avec IDEA Vim au niveau du plugin Vim pour mes projets pur Java. Et puis le reste, effectivement, j'utilise Vim avec NerdTree, notamment en termes de plugins. Bon, il y en a plein, mais notamment NerdTree.
Et Vim aussi, j'utilise NerdTree. J'ai aussi, c'est, je sais plus lequel c'est, si c'est CTRL-P ou je sais plus quoi, là, pour trouver, naviguer facilement, là, et trouver les fichiers.
Ah oui, ça m'a jamais accroché, en fait.
Non, c'est pratique. Enfin, ouais, j'utilise pas forcément super souvent. Parce que souvent, je fais juste des 2.e pour retrouver le dernier truc que j'ai édité, mais ouais, non, c'est pas mal. Mais ça mériterait un épisode, hein. Sur Vim.
Ouais, on va le faire, un de ces quatre. Le défi, c'est comment tu fais Vim en audio, parce que.
Ouais.
Mais on va le faire.
Et IntelliJ, là, vu que je regardais un petit peu le langage Go, j'ai aussi installé le plugin pour Go et ça marche plutôt pas mal, hein. C'est.
Ouais.
Alors, j'ai pas essayé encore VimGo, justement. Il va falloir que je l'essaye. Parce que VimGo, ils ont intégré aussi plus de trucs, là. Dans l'univers Go, il y a pas mal d'outils, des linters, des choses comme ça, le reformat automatique avec GoFormat et tout. Et, donc on peut vraiment automatiser ça dans Vim. Dans IntelliJ, j'ai pas regardé, mais je crois pas que ça aille aussi loin, effectivement. Mais par exemple, des trucs comme le refactoring, tout ça, ça marche bien, déjà.
Ouais. Mais je croyais qu'en Go, tu n'avais pas refactoré parce que c'était parfait dès le début.
Non, bah, tu sais.
De toute façon,
tu
n'as pas le choix. Donc,
pas le choix, il n'y a pas d'autre option.
Tu as déjà des projets là, comme Go Rename, etc. Et je veux dire, simplement, quand tu veux changer le nom d'une variable, je sais pas, t'es, ou d'un paramètre, tu es bien content de pouvoir le changer et que ça change les références partout, quoi.
Ouais. Mais le truc pervers, c'est que comme ils font du duck typing type safe, là, structural typing, voilà. Quand tu fais un renommé, ça peut avoir des implications
Pour les interfaces, c'est clair, ouais. C'est, ouais.
Et pourquoi il m'a renommé celle-là, ce con? Ah, bah, t'as demandé. Donc, je sais pas s'ils sont conservateurs et qu'ils font pas le renommage ou s'ils sont ou s'ils sont un petit peu agressifs. À ce moment-là, tu peux avoir des surprises. Voilà. Sinon, Arnaud, tu parlais de Eclipse, notamment pour l'analyse en gros perf ou choses comme ça.
Oui, moi historiquement j'étais Eclipse au début de ma carrière et puis j'en ai eu ras la soupe parce que en termes de stabilité il fallait réinstaller tous les 3 mois. C'était parce que personnellement j'adorais Eclipse en termes de d'utilisation, moi ça m'allait très bien. Effectivement c'est moins puissant je pense en tout ce qui est refactoring, et encore je sais pas de nos jours ce que ça donne, mais j'en étais satisfait. Ce qui m'avait gonflé c'était effectivement la stabilité du truc. Dès que tu voulais rajouter un nouveau plugin ou un nouveau machin, tu plantais tout, enfin une fois sur deux t'avais des incompatibilités de plugin, ça se plantait
partout.
Comme
dans Jenkins.
Et c'était il a d'autres problèmes celui-là moins en fait, mais bon. mais effectivement ça c'est ce qui me gonflait sur Eclipse. Je suis passé sur IntelliJ. Mais après, effectivement, Eclipse, il reste des bonnes. L'avantage, c'est que ça reste un framework de développement pour les outils. Moi, je l'utilise pour Eclipse Math. Quand on a des problèmes de mémoire, vous avez des appdumps et que vous voulez analyser un peu ce qui se passe, ce qu'il y avait dans la mémoire, etc. Donc, vous avez Eclipse Memory Analyzer, qui lui est donc un très bon outil pour pour gérer ça. J'utilisais aussi la version, comment ça s'appelait ? C'est Gepetto. Gepetto, c'était quand je faisais du Puppet. Donc, pour toute l'infrastructure, tout ce qui est DevOps, etc., je faisais du Puppet. Et bah, c'est aussi un IDE orienté Puppet, mais donc qui est écrit au-dessus d'Eclipse. Voilà. Donc, là-dessus, Eclipse, voilà, encore toujours son intérêt parce que, en termes d'ouverture, c'est libre. Donc, derrière, il y a différentes implémentations pour tout un tas de langages ou d'environnements dédiés. Donc, ça reste utile à ce niveau-là. Ouais.
Good. Des plugins particuliers que vous voulez mentionner dans les IDE? Moi, je suis à la IntelliJ Community Edition. À part mon plugin Vim, en gros, j'essaie d'en mettre le moins possible.
J'ai rien de spécial, moi, je crois.
Surtout que, enfin, je veux dire, il vient avec tout un tas de. Enfin, le support intégré fait qu'on n'a pas besoin de plugins comme dans Eclipse, en fait. Ça couvre vraiment.
Ils ont changé Eclipse maintenant. Eclipse, ils sont venus aussi au même mode il y a quelques années avec les distributions où tu prends la distribution JE ou je sais plus quoi ou machin et ils te mettent tout un tas de plugins par défaut qui sont censés fonctionner, mais sauf qu'après ça restait rigolo puisque tu pouvais avoir le choix, soit tu prenais la distribution avec Maven, soit tu prenais celle avec Git. Je me souviens sur un truc dans le genre. Enfin, tu pouvais, t'en avais pas une qui avait les deux. Ah bon, désolé, t'as pas les deux trucs qui étaient utilisés à l'époque. Mais voilà, mais oui, non, je sais pas dans IntelliJ, moi. Enfin non, j'utilise l'autre version, la version comment qu'ils l'appellent,
Ultimate,
ouais, c'est ça. Alors soit en EAP, soit en stable, souvent en stable. De temps en temps, je m'amuse avec l'EAP quand il y a des nouveaux trucs rigolos. Donc, t'as même pas besoin de licence en fait quand elle est en EAP, tu l'upgrades et puis. Parce que finalement, je trouve que les EAP sont relativement stables. Enfin, j'ai jamais eu de gros problèmes de stabilité avec IntelliJ. À la limite, quelques plugins borderline qui sont pas bien maintenus, qui sont pas dispo. Mais bon, comme j'utilise très peu de plugins additionnels, non. Après, effectivement, tous les trucs de par défaut sont dispo. Non, le seul que je me vois installer, c'est celui pour gérer genre les formats textiques Markdown. Voilà, je crois que ça c'est un plugin qui est pas par défaut, donc je le rajoute. Et puis celui pour les gitignore, les machins, trucs comme ça, mais qui fait vraiment pas grand chose. Ou les fichiers bash, ce genre de choses pour quand t'as des formats de fichiers un peu plus qui sont pas orientés Java, etc., donc qui sont pas par défaut. Mais
le seul plugin, comme je disais, que j'ai rajouté, moi, c'était celui pour Go. C'est tout ce que j'ai rajouté récemment. Sinon, le truc de base. Et souvent les EAP. Community Edition est quand même open source, hein, je voulais juste le rappeler au passage. C'est par exemple, ils l'ont utilisé pour l'Android Studio, là, Google. Et ce qui est bien quand même dans Community Edition, c'est que, enfin, par exemple, bah moi qui fais du Groovy, c'est intégré dedans. Donc j'ai pas besoin forcément d'utiliser la version Ultimate. Mais par exemple, pour ceux qui sont dans la sphère Groovy, ceux qui font du Grails, le support avancé de Grails, par contre, c'est dans Ultimate Edition, par exemple. Donc
ceux qui font du Groovy, c'est bon, mais ceux qui veulent aller plus loin et faire
c'est
du
surtout,
Grails,
ouais, c'est surtout pour les full stack. C'est pour les stacks complets, etc., qu'il y a de l'Ultimate. Donc là, tu parles de Grails, mais je pense que tous les Spring Boot, les machins, etc., enfin tous ces trucs-là avancés, dès que tu as la stack complète, là, c'est que dans la Ultimate. Mais par contre, c'est vrai que dans les briques de base, Java E, je pense que les trucs avancés de Java E ne sont que dans la Ultimate.
Par contre, non, mais Java EE, c'est pas avancé, hein, Antonio.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'avance plus. Voilà.
Non, mais ça va.
Non, alors moi j'ai effectivement quelques plugins, comme disait Arnaud, les Markdown, les Tasky Doctor, et bien sûr tous les JE, Parpampion. Mais il y a un truc que j'aime bien, et j'en parle un peu après, c'est j'ai découvert un truc qui s'appelle Plant UML, donc Plant, P-L-A-N-T, UML, et ça permet de faire des diagrammes UML avec une syntaxe textuelle, donc on écrit du texte, on dit carré, ça fait un carré, flèche, ça fait une flèche, donc on peut faire comme ça des diagrammes d'activité, de séquence, de classe, plein de trucs avec du texte. Et il y a même un plugin Maven qui prend ce texte-là et qui génère des PNG. Et sur IntelliJ, il y a ce plugin qui est vraiment bien, Plant UML, où on écrit le texte et on a l'image, on a le diagramme à droite qui s'affiche. Et c'est plutôt pas mal. J'utilise beaucoup Plant UML parce que quand on écrit de la doc pour le projet, on le versionne avec notre code. Tout est versionné, donc les diagrammes font sens avec la, la version Bootcloud, où on peut faire des diffs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le plugin aide énormément aussi.
D'ailleurs, quand tu fais le Konamo Code dans le plugin, ça fait Plante UML versus Zombie. Et tu peux jouer.
Donc Antonio ne veut pas faire de front-end, mais il fait de la doc. Alors là, on aura tout vu.
Quoi. Il fait de l'UML.
Il fait de l'UML.
Je croyais que c'était un plugin qui faisait planter automatiquement IntelliJ dès que tu faisais du UML dans IntelliJ.
Eclipse 1, c'était comme ça, ouais.
Celui-là, non, Steel Rose, attends, ça s'appelait comment déjà Rational Rose.
Ouais, ça.
De UML, là. Oh là là, quelle grosse usine à gaz.
Mais cela dit, moi, l'UML, bon, j'ai un peu tout mis de côté, à part le diagramme de séquence, qui effectivement.
Bon, puis même le diagramme de classe, ça reste quand même utile, mais voilà, c'est essentiellement les deux.
Plus en générer que, enfin, ça dépend. Mais généralement, enfin, ça
c'est bien. Tu fais quelques petites boîtes et tout pour dire, ah oui, tiens, là, il y a ci, là, il y a ça. C'est vrai que ça peut rester quand même assez utile. Séquence et classe, moi, c'est les deux seuls vraiment que j'utilise. Le reste,
ouais.
J'utilise et ben, tu pas peux classe, tout faire avec Plante UML.
D'accord. Alors, gestion de source. Vas-y, Arnaud.
Gestion de source. Git, on va dire. Subversion, peut-être, certains, non
ceux qui sont chez Apache, qui sont obligés parfois d'utiliser Subversion.
Quelle horreur. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. À chaque fois que je dois faire un commit sur du Subversion, c'est dur, ça pique. Mais bon, Subversion, moi, j'utilisais, c'était quoi? C'était l'outil, c'était Tower, que j'utilisais beaucoup, je crois, pour Subversion. Et Version aussi, je crois qu'il y avait un plugin qui s'appelait, un autre truc qui s'appelait Version, qui était des bons clients pour Subversion à l'époque, où j'en faisais pas mal. Et non, maintenant, Git, alors c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, Git, beaucoup de command line. Voire même l'intégration avec GitHub. Il y a un petit truc qui est assez sympa si vous cherchez sur le net, c'est Hub, qui est une extension aux commandes Git pour GitHub. Et moi, ce que je fais, comme je passe beaucoup de temps dans la ligne de commande, c'est que je fais toutes mes opérations GitHub.
Ils n'ont pas appelé Hub d'ailleurs, c'est mieux de l'appeler Hub quand même.
Ça aurait été bon, ça.
Bon, voilà. Et voilà, fort bondir après ça. Et donc, j'utilise extension Hub pour faire toutes les opérations.
Même plugin Viagra pour l'intégration Gerrit.
Oh mon Dieu, c'est compliqué. Je ne sais plus. Et voilà, donc obligatoirement, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, Hub pour faire toutes les opérations dans GitHub en ligne de commande, donc forquer un repository, créer une pull request, puis après les opérations classiques de Git, les merges, etc. Mais c'est vrai que pour les opérations de Git qui sont de GitHub qui sont forquer un repo dans son organisation ou dans son compte et puis créer des pull requests, ouais, j'aime bien, ça m'évite d'avoir à ouvrir l'IHM pour faire ça, ça a peu d'intérêt d'aller balader là-dessus. Où il y a même d'ailleurs une commande browse, je crois, ça va être git browse, qui permet d'ouvrir dans ce cas-là dans le navigateur automatiquement la bonne page chez GitHub. Voilà, donc il y a plein de petits trucs sympas, et puis sinon, c'est SourceTree, le client lourd, j'utilise SourceTree dès que je veux faire des trucs un peu plus complexes. Alors ça dépend, enfin surtout pour visualiser les historiques, les choses comme ça. Sinon, ouais, ligne de commande, dès que je fais des rebases interactifs et tout ça, j'utilise plutôt quand même les lignes de commande.
Alors en parlant de ça, moi j'utilise TIG, qui est en textuel mais graphique-ish, qui permet de voir l'historique, les branches, etc. Et je l'utilise notamment pour faire de la chirurgie en termes de rebase ou mettre certaines lignes et pas toutes, etc. Donc en général, quand je travaille mon commit, je vais passer par TIG.
Alors moi, je ligne de commande, mais il y a quand même un petit outil que j'aime beaucoup, c'est GitHub UP. Et en fait, lorsque vous êtes sur votre repo Git, vous lancez ça en ligne de commande, vous faites GitHub et vous avez un bel écran qui s'affiche avec toutes vos branches, où est-ce que vous en êtes. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça me permet de taper des lignes, de faire mes merges, etc., etc. Et puis en tâche de fond, j'ai de manière visuelle où est-ce qui se passe. C'est un client qui répond vachement vite en plus. Donc j'aime bien moi le côté ligne de commande et GitHub qui me permet de voir ce qui se passe. plus une intégration sur le shell. J'utilise Fish, mais je sais qu'il y a une intégration Git aussi avec Bash, et, donc SH et tout ça. Mais en ligne de commande, c'est vrai que dans le shell, je sais sur quelle branche je suis, le nombre de commits à faire, le nombre de pull à faire. Push, ça c'est plutôt pas mal aussi.
Cool. Un petit web API testing de Guillaume.
Ouais, j'ai rajouté ça. Donc là, chez Restlet, on a un outil qui s'appelle DHC, donc qui permet de faire des. Donc c'est une interface qui permet de faire des appels REST. Donc on peut définir les query parameters, les headers, etc. Ça parse aussi le. Et ça colorie la syntaxe et tout du JSON ou XML qui est retourné. On peut même définir des scénarios, en fait. Donc, avec des assertions, on fait plusieurs appels qui suivent et on a besoin, dans l'appel suivant, du résultat de l'appel précédent, des choses comme ça, on peut faire. Donc, c'est vraiment sympa pour tester, automatiser des tests d'API web. Après, plutôt côté ligne de commande, donc, on connaît tous.
Attends, pour le trouver, DHC, ouais. Parce que c'est sur Internet, c'est
DHC
compliqué.
DHC et puis Restlet. Et puis, oui, puisque DHC, ça veut dire plein d'autres acronymes aussi. DHC et Restlet. Et tu le trouveras facilement. Donc, sinon, restlet.com. Okay. Et puis, c'est dans la liste des produits. Après, donc, côté ligne de commande, donc, tout le monde connaît Curl. Mais Curl est un peu, comment dire, des fois un peu frustrant à utiliser ou pas très très joli. Et il y a un outil qui s'appelle HTTPIE, et dont la commande, en fait, c'est juste HTTP quand on le lance en ligne de commande, et qui en fait comme curl, mais en plus simple. Et ce qui est vraiment génial, c'est que même dans le shell, comme ça, il y a le syntax highlighting, on voit les clés des headers, c'est le HTML ou le JSON ou XML est parsé et tout automatiquement avec des couleurs. Et même s'il n'est pas pretty printé au départ, et ben il te le formate bien. Donc j'aime vraiment bien ce truc-là. Et un autre outil que je trouve sympa et qu'on peut utiliser en combinaison avec Curl et qui peut aussi pallier par exemple au manque de syntax highlighting de Curl, c'est JQ. Alors JQ, donc c'est pour du JSON, hein, pas pour du XML, mais quand on a des web services, des API REST qui utilisent du JSON, en fait on peut, c'est un peu comme un, alors je me rappelle jamais là, entre les sed, hook et compagnie en ligne de commande, mais on va dire que c'est un peu l'équivalent mais pour du JSON. Donc on peut facilement trouver les éléments qui nous intéressent dans le JSON, les extraire et puis les repasser avec des pipes à d'autres outils. JQ est vraiment super pour faire ça, avec une espèce de syntaxe un peu à la XPath, mais spécial JSON. Et si on l'utilise avec curl, donc on fait curl quelque chose et puis on met pipe JQ point, il va le formater et le pretty printer, le colorier, un peu comme fait HTTP Py. Donc ça, c'est des petits outils que j'aime vraiment beaucoup. Voilà.
Ok. On va passer au côté un peu plus ops. Bon, il y a le classique VirtualBox, ne serait-ce que pour faire tourner la VM Docker quand on n'est pas sous Linux.
Ouais, bah c'est les trucs de base. De toute façon, on en revient à l'historique virtualisation. C'est soit du VirtualBox, soit VMware. Je ne sais plus le nom des produits. Fusion, c'est que sous Mac. Je sais plus. Je crois qu'ils en ont, ouais, un autre sous Windows, mais je ne sais plus son nom. Enfin bon, c'est les grands classiques pour faire tourner des OS au-dessus de son OS en complet. Et comme tu le dis, ouais, bah dès qu'on n'est pas sous Linux, si on veut faire du Docker, de toute façon, on a besoin. Moi, j'utilise quand même toujours pas mal les machines virtuelles. Parce que bah voilà, il y a plein de choses où tu as besoin de créer un environnement complet, et bon, Docker là-dessus, c'est bien pour démarrer un service, c'est bien pour démarrer un petit truc, mais dès que tu as un truc complexe avec plein de choses dedans, c'est vrai qu'une VM isolée, bah c'est pas si mal. Bon, après si tu veux traiter notamment des Windows ou des trucs comme ça, bah quand tu es sous Mac, tu es bien content d'avoir une machine virtuelle. Mais par contre, ce que j'utilise beaucoup au-dessus de ça pour éviter d'avoir à gérer manuellement les machines virtuelles, les télécharger, les stocker, etc., J'automatise tout ça, je scripte tout ça souvent avec du Vagrant et tous les outils dont on a déjà parlé historiquement, Vivi et d'autres comme ça, pour gérer directement sous forme de scripting sur quoi je crée ma VM, qu'est-ce que je fais dedans, etc., comment elle est stockée, je l'archive sur un serveur et puis ça me les télécharge tout seul, etc. Et donc en ligne de commande, je peux démarrer comme ça facilement des VM complètes, voilà. Mais après, voilà, ça reste de la machine virtuelle avec la lourdeur qui va avec. Mais ça reste, par contre, voilà, utile dès qu'on est sur aussi des OS comme Windows ou tout ça.
Ouais. Bah, les trucs, c'est que, mettons que tu aies un SSD de 256 Go, ça part vite, quoi.
C'est ça. Bah, c'est pour ça qu'après, moi, j'utilise aussi quand même beaucoup donc Vagrant et tout, parce que ça veut dire que j'archive mes VM, je les stocke sur mon NAS ou je les stocke sur des serveurs corporate ou quoi que ce soit en fonction du besoin sur le net. Et puis, bah, je peux les dropper facilement et les re-télécharger. Après, je ne suis pas chez Antonio, pareil, je ne vais pas non plus, je fais gaffe un peu à ce que j'utilise, à ce que je... Ça fait quand même une VM d'un OS de base, alors sauf après prendre des OS minimalistes où on tombe à quelques centaines de megs, mais de base, souvent, les OS, c'est quand même au minimum 600-700 megs l'image. Voilà, sans rien dedans, sans grand-chose, on va dire. Donc, c'est vrai que voilà, ça reste le problème de gérer l'espace disque de la VM et puis après, bah, son téléchargement, tout ça. Mais voilà, le fait, par contre, de ne pas avoir à les gérer à la main, que ça soit pas soit quelque chose que tu puisses partager facilement et tout, c'est quand même super pratique. Je sais que là, je suis en train de monter ça beaucoup pour notre équipe support chez CloudBees. Je suis en train de travailler là-dessus pour voilà, essayer de reproduire tout un tas d'environnements et de choses dessus pour voilà, avoir de tout près, bah, pas moi, un LDAP, un Active Directory, etc. etc. Quand on peut, on va le faire sur du Docker, mais tout ne s'y prête pas. Voilà. Dès que tu es sur du monde Windows ou sur des trucs propriétaires ou quoi que ce soit, bah, souvent tu retombes sur la VM.
Alors toi, tu disais que tu utilisais aussi Docker Toolbox, qui est en gros package VirtualBox, je ne sais plus ça, mais Vagrant.
Ils mettent VirtualBox dedans, je ne sais plus.
Si, ils mettent VirtualBox, oui.
Mais effectivement, oui, alors Docker Toolbox, c'était le, je sais plus, donc il l'avait lancé il y a quoi, il y a 6 mois, un truc comme ça. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir sous les environnements non Linux essentiellement un package tout complet qui fournit Docker, donc, et tout son environnement, tout son écosystème nécessaire pour que ça tourne sur ces environnements-là. Moi, je l'utilise et je l'installe à la main. Je sais qu'il est disponible aussi sous, avec Homebrew Cask qui permet de déployer des packages de type, client lourd. Ouais. Je le fais à la main. Moi, ce que je reproche à Toolbox, ce que j'aime pas, c'est que bah effectivement, c'est un truc lourd, donc il faut aller sur le site web et télécharger une nouvelle version, installer une nouvelle version, etc. Moi, j'aime bien Brew et les systèmes de package où on fait update et puis ça marche, etc. Bon, c'est un peu. Mais ouais. Voilà. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a tout disponible. Ça crée automatiquement les outils qui vont bien. Après, ça empêche que voilà, il faut comprendre et utiliser les Docker machines et autres outils pour voilà faire tourner son environnement Docker sur, bah, par exemple, du macOS ou du Windows, etc.
Ouais. Alors moi, j'utilise. Alors, il ne le recommande pas, hein, d'accord, donc c'est à votre propre risque, mais comme j'avais déjà VirtualBox, j'installe Docker Machine via Brew,
ouais.
Donc c'est une partie de Docker Toolbox, du coup, et du coup, ben, ça, pour moi, ça marche, donc ça installe Docker Machine, ça crée la VM, et puis après... Ouais.
C'est ça, tu l'as disponible dans Brew, t'as les morceaux qui sont disponibles dans Brew, t'as Docker Machine, Docker tout seul, Docker, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre Compose. Je crois que tout cela, tu peux les trouver à l'unité dans Brew. Mais effectivement, après, le problème, c'est voilà, faut qu'ils fonctionnent ensemble. Bon, tant que tu ne fais pas une avant. Après, il y a leur truc graphique là, pour, et puis leur shell, etc. Je crois que tu les as que dans Docker Toolbox, puisque tu peux ouvrir un shell spécial, etc. Voilà.
Et sinon, j'utilise Ansible pour... Je commence en tout cas pour scripter l'installation des serveurs.
Bah, de toute façon, aujourd'hui, ça reste celui qui est le plus... c'est un des petits derniers et qui est écrit en Python, mais qui a l'avantage d'être un peu plus léger, plus simple et plus accessible que des mastodontes comme Puppet ou Chef, voilà, qui requièrent quand même beaucoup plus d'expertise et puis qui ont un passif, donc avec les avantages et les inconvénients du passif de ces outils-là.
Ouais.
Juste pour venir sur Docker, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Nicolas Deloff, hein, qui est en train d'organiser une chaîne YouTube justement sur ce sujet-là en français. qui s'appelle Quad 9 Docker, si je me trompe pas. Et donc, ouais, bah, tous ceux qui, si vous voulez vous former, voilà, l'épisode 2, je crois qu'il va sortir demain ou enfin ces jours-ci. Voilà, donc il est en train d'organiser ça, c'est pour voilà un peu fédérer la communauté francophone et essayer de partager les connaissances. Comme lui, il est bien plus compétent que moi sur le sujet. Voilà, il fait ça. Donc je sais pas si c'est encore ouvert son projet Ulule pour essayer de s'équiper un peu mieux en matériel. Il avait fait aussi un appel aux dons. Voilà, mais je sais que Docker, voilà, aujourd'hui, ça reste un truc très pratique. Et dès qu'on a, moi, je sais que dès que je peux, j'utilise, notamment quand j'ai des outils à installer localement et que je veux pas que ça soit que ça m'en fiche partout sur le file system. L'avantage de Docker, voilà, c'est qu'on peut installer un MySQL, un machin, un truc en quelques lignes de commande sans avoir à polluer tout le système et on peut vite les dropper. Donc ça reste quand même super pratique pour l'environnement de dev, je parle.
Si votre boss est un peu trop méga conservateur, bon déjà cherchez un autre boulot, mais ensuite regardez pas quoi de neuf Docker au boulot peut-être.
Je sais pas, effectivement, à ce niveau-là effectivement faut.
Bon, c'est du Nicolas quoi après. Hein.
Voilà. Bon, il y a des pandas.
Je crois pas qu'il y ait de pandas dans celui-là. Il y a des grands-mères, des enfants torturés, tout ça. au niveau communication, qui est quand même une grosse partie du boulot de tout le monde, hein. Alors moi, donc Gmail pour la partie pro, sinon Apple Mail avec un serveur, tout ce qui est de plus classique pour ma partie open source, et puis le serveur de la boîte pour le reste, mais tout ça centralisé dans Apple Mail. IRC pour la communication un peu ouverte sur les différentes communautés. J'utilise un truc en ligne de commande qui s'appelle WeChat pour ça. Sinon, HipChat, on commence à l'utiliser plus sérieusement là dans l'équipe. C'est vrai que pouvoir l'utiliser sur toutes les plateformes facilement, retrouver l'historique, même temporaire, c'est bien. J'utilise Telegram. C'est plutôt avec ma femme, ça. L'avantage, c'est qu'il Telegram, donc c'est de la messagerie instantanée. On peut partager des images, etc. Mais c'est de la messagerie instantanée. On sait quand quelqu'un a reçu le message et qu'il l'a lu. Donc ça peut être pratique. Et puis surtout, il est très peu consommateur en bande passante. Donc à l'étranger, quand j'allume la data, je sais que Telegram, il va pas me consommer trop. Et puis les SMS, c'est pas 1€ le SMS. Donc c'est pas mal. Skype, c'est avec vous essentiellement. Pas mal les communications 1 à 1 en audio ou en vidéo.
Ouais, c'est vrai.
Pour l'enregistrement, ça reste quand même l'outil, je trouve, le plus stable en termes de qualité. Donc, pareil, toutes les interviews, etc., c'est via Skype. On s'est mis beaucoup à Google Docs pour écrire un document à plusieurs. Les retrouver, c'est vraiment le bordel.
Ah oui, la recherche est nulle, c'est marrant. Ça vient de chez Google et la recherche est nulle.
Ouais.
C'est fou.
Ouais. Sinon, XWiki.
C'est pour ça qu'il faut passer à XWiki.
Voilà, XWiki pour les casse-couleurs, on l'utilise pour écrire les show notes, qui devient les show notes. Dropbox, évidemment, alors je suis pas. Je l'utilise. Partager avec plein de gens, donc une partie ma femme, une partie vous, les casse-codeurs, une partie le boulot. Non, d'ailleurs, maintenant on a Google Drive, donc je l'utilise plus, mais voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins mes outils de communication au sens large.
Et tu oublies Slack, c'est vrai que.
Ouais, Slack aussi,
De plus en plus de Slack.
Ouais, de plus en plus de Slack. Moi, au boulot, j'utilise HipChat parce qu'en plus, ça s'intègre automatiquement avec toute la suite Atlassian. On a le HipChat Pro. Donc, quand on paye, on a aussi la webcam. Donc, c'est bien pour les stand-up meetings en remote. Mais c'est vrai qu'il y a du Slack aussi. Enfin, moi, je suis très Google Mail. Et je vous avouerai qu'entre les HipChat à droite, les Slack à gauche, les Skype, les Hangouts, les WhatsApp, j'aime bien Google Mail en fait. J'aime bien que tout arrive dans un seul point. Et après, à moi de faire l'effort de lire ou pas. Mais je trouve que il y en a un peu partout. Et je vous passe les Google Hangouts, les Google Chat, les pop-up qui s'ouvrent parce que j'ai oublié de cliquer sur un machin. Enfin, ça me stresse un peu, moi, tous ces trucs qui Toutes ces pop-up là qui interagissent.
Tu n'as pas cité Twitter aussi.
Alors, il y a quand même dans tous ces outils-là, il y a l'outil que je déteste le plus au monde, le téléphone. Je déteste ça. Ah. Alors SMS, oui, etc. Mais le téléphone, lorsque ça sonne, c'est galère parce que c'est un mode synchrone en fait. On appelle et on décroche et je déteste ça. Ouais, je préfère tous ces modes asynchrones. Je réponds lorsque j'aurai le temps, mais le téléphone, c'est vraiment le truc à bannir en 2016.
Mmh. Moi, je déteste appeler. Encore recevoir les appels, ça va. Si je sais de qui ça vient, mais appeler, c'est encore pire que de recevoir des appels pour moi. Ah là là. Si je peux envoyer un mail, je le fais quoi.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des tonnes de médias, de notifications. C'est vrai que c'est aujourd'hui super compliqué de s'y retrouver. Voilà, enfin,
et de rester concentré.
On déborde, ouais, entre les synchrones, les asynchrones, le boulot, le pas boulot, etc. Enfin,
C'est vrai.
Mais je me trouve à être de plus en plus... Alors, je comprends parfaitement le côté... comme ça, on peut le traiter en asynchrone, c'est génial. Et je l'utilise pleinement de mon côté, je suis gêné quand un gars avec qui je suis censé travailler ou à qui je vais demander une question est pas en ligne en fait. C'est hyper frustrant et c'est là où on utilisait le téléphone évidemment à l'époque. Moi j'utilise pas très peu le téléphone à part pour quand c'est des trucs très touchy ou social, j'ai utilisé le téléphone, voire le vidéo. Mais voilà, c'est le seul cas.
Mais sauf que toi qui es adepte justement de l'organisation du temps, d'essayer d'optimiser ton temps, etc., bah, être dérangé, chercher le mot en français, être dérangé constamment par du téléphone ou d'autres choses comme ça, c'est vrai que c'est hyper pénible. Enfin, tu peux perdre ton temps toute ta journée à être dérangé par tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est pas simple de trouver le juste milieu. Mais oui, je suis comme toi. Ça m'énerve quand j'ai besoin d'une info de quelqu'un et puis que je sais, je peux pas le contacter tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que l'avantage des mails ou des mailing lists comme on utilise encore beaucoup sur l'open source tout ça, c'est complètement asynchrone. On sait qu'on aura certainement pas une réponse dans les 5 minutes. Mais voilà, ça reste plus pratique pour organiser son propre temps. Tu lis tes mails quand tu veux, tu réponds quand tu veux, tu réponds pas si tu veux. Mais c'est vrai que c'est pas simple de trouver le juste équilibre. Et puis on est avec les différentes communautés, on est obligé d'utiliser tout un tas de médias et c'est pas simple de les agréger.
Bah, un jour, il y a un mec qui va écrire un adium de ces trucs-là, non?
J'avoue que j'en rêve un peu de ce genre de truc parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, moi j'utilisais Adium pour tous les trucs là, tous les
ICQ.
Ouais, c'est ça, je sais plus ce qu'on avait.
ICQ.
Voilà. Un truc comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était super pratique d'avoir ça pour avoir un endroit unique où tu as tous tes messages. Moi, iMessage, j'utilisais pas mal parce qu'il fait, enfin, celui de message de macOS permet de se connecter sur les trucs. À l'époque de Google, etc. Maintenant, je crois que ça marche plus. Mais avant, j'utilisais sur l'intégration Google et tout ça. Mais bon, voilà. Enfin, il faudra un truc qui fasse tout d'un coup. Parce qu'entre les Facebook, les Twitter, les trucs du boulot à droite à gauche, c'est plus possible.
Et oui, mon pauvre monsieur. Voilà. Et comme ils disent, mais il y a une API. On a parlé de Shush, donc si vous êtes souvent en call et que vous utilisez votre ordinateur en audio in and out, je vous recommande, et que vous êtes sous Mac, je vous recommande Shush, ça vous permet de bloquer le micro avec une petite touche, moi j'utilise fonction.
C'est pour ça qu'on n'entend pas Vincent, il faut lui dire de le débloquer.
Ouais, Vincent, bon, c'était compliqué.
Il avait piscine.
Comment?
Il avait piscine.
Non, il avait... C'est ça. Non, ça devient difficile pour nous d'être tous ensemble au même moment.
Ouais, c'est dur. Voilà. Nous avons des agendas de ministres.
Il avait du boulot. Ces gens qui sont obligés de bosser aussi. Ouais. J'espère que Sacha ne m'entend pas.
Il priorise son boulot par-dessus les casques d'or.
Ouais, voilà. C'est quoi ça?
Voilà, il y a quelqu'un qui a mis Buffer. C'est quoi Buffer?
Ouais, donc on avait parlé de mailing list et de Twitter aussi. Quand on veut faire une liste style liste de diffusion Par exemple, moi, enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite d'ailleurs, je vais me faire taper sur les doigts, mais je faisais une mailing list Groovy où je collectais, tu vois, toutes les informations intéressantes, les liens, les présentations, les articles et tout. Et j'utilisais MailChimp pour envoyer donc des mailings à tous ceux qui étaient intéressés, qui s'étaient abonnés. Ça, je trouvais ça un outil pas mal. Donc, c'est un service en ligne. Et donc pour Twitter, j'utilise l'appli Twitter, de temps en temps TweetDeck aussi, vu que j'ai plusieurs comptes, donc c'est pratique. Et j'utilise deux outils, Buffer et Snipply. Alors Buffer, en fait, c'est pour bufferiser les tweets, c'est-à-dire les scheduler, les prévoir à telle ou telle date. Donc plutôt que, tu sais, je fais ma veille techno et d'un seul coup je vois 10 articles intéressants à tweeter, bah, au lieu de faire 10 tweets d'un coup, en fait, je peux les étaler en disant, bah voilà, moi, je veux faire 2 tweets par jour. Et donc, si j'ai rien à tweeter, bah, j'en ai peut-être encore dans le buffer. Et comme ça, je donne à intervalles réguliers des tweets intéressants plutôt que faire des gros bursts qui vont pas forcément intéresser tout le monde. Et un autre outil, là que j'utilise chez Restlet, en fait, c'est Snipply, un autre service en ligne. En fait, des fois, alors, quand on fait un peu de communication, marketing, etc., on a envie d'attirer quand même les gens vers notre site et vers les produits qu'on propose, les services qu'on propose, etc. Et en fait, des fois, on partage un article qui est intéressant, mais qui peut faire écho à un article qu'on a sur notre blog ou à notre page produit ou un screencast qu'on pourrait avoir chez nous. Et en fait, Snipply, on peut créer des liens, un peu comme Bitly et compagnie. Mais ce que ça fait, ça crée des liens qui affichent le contenu du site dont on veut parler et partager l'URL. Mais il y a une sorte de petit pop-up discret en bas à gauche qui apparaît et disant « regardez aussi tel article qu'on a sur notre blog, par exemple ». Donc ça, pour attirer un petit peu les gens sur notre contenu, c'est assez sympa. Donc j'utilise Buffer et Snipply pour étaler des tweets dans le temps et pour attirer un petit peu de trafic en retour vers le contenu qu'on produit. Voilà, petites astuces marketing Twitter.
D'accord. Je ne comprends pas bien.
De quoi Buffer,
lien. Tu m'enverras un lien
Ouais, je t'enverrai un lien. Ouais. Donc, ouais, ça marche.
Ok. Ouais, MailChimp, on en a parlé. Voilà, au niveau présentation.
Ouais, donc nous qui faisons quand même assez régulièrement des présentations à des conférences à droite à gauche, donc qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour ça?
La voix.
La voix.
Notre voix.
Notre sex appeal aussi, notre présence naturelle sur scène. mais également, donc là, chacun ses préférences, mais en tout cas, moi je reste très attaché au pixel perfect, le truc qui est bien aligné à gauche, à droite, au pixel près. Donc, je préfère quand même encore CSS. Les outils. justement, je préfère Keynote. Alors, c'est encore un outil Apple, vu qu'on est tous sur des Mac. Ouais. Mais Keynote est vraiment, vraiment, vraiment super comme outil. J'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pas réussi à me mettre aux outils type JavaScript, présentation.
Non, jamais.
Ça ressemble jamais à ce que je veux, le look est pas comme je veux, et j'ai pas envie de passer des heures en CSS, en JavaScript, en HTML pour que ça ressemble vraiment à ce que je veux que ça ressemble. Donc Keynote, ça pour moi, c'est vraiment le truc. Et après, quand je veux les publier, ces présentations, pour pouvoir les partager après sur Twitter ou mon blog, j'utilise SpeakerDeck. Avant, j'utilisais SlideShare, qui avait été racheté par LinkedIn. SpeakerDeck, c'est l'outil de GitHub. Et que j'aime mieux parce qu'en fait, il est moins chargé en pub, etc. Et il se focalise vraiment plus quand même sur le contenu que tout ce qu'il y a autour. Et donc, Keynote plus SpeakerDeck pour publier.
Ouais. Moi, je suis aussi pas mal Keynote quand j'ai le choix. Souvent, quand je fais des confs à plusieurs, je retombe sur du PowerPoint parce que tout le monde n'a pas Mac, tout le monde n'a pas Keynote, etc. Je retombe sur le PowerPoint qui marche quand même relativement bien, faut pas exagérer. Ça permet quand même de faire des presses qui sont propres. Par contre, ce que je ne supporte pas, ce sont les versions LibreOffice. Alors, je ne sais plus leur nom, mais dans LibreOffice et OpenOffice, alors là, c'est une catastrophe.
Une presse.
Là, j'ai perdu tous mes cheveux là-dessus. Clairement, c'est impossible de faire une presse correcte avec
ces outils.
Voilà,
c'était pourtant,
là.
Antonio, ça lui fait pousser les cheveux.
Eh ouais.
Il fait plus assez de presse, je pense. C'est pas possible.
Ah non, moi, à contrario, je suis très LibreOffice parce que à l'époque, j'avais du Windows et je faisais du LibreOffice. Et aujourd'hui, j'ai du Mac et je fais du LibreOffice. Et demain, je sais pas ce que j'aurai, mais... donc moi, LibreOffice, au contraire, je l'utilise depuis longtemps, donc je connais les trucs et astuces. Et quand même, j'ouvre une parenthèse, hein, mais j'ai écrit mon premier livre avec OpenOffice à l'époque, 500 pages. Ouais. J'ai écrit mon deuxième livre avec Word, 500 pages. Word est pas fait pour
écrire un livre.
et voilà, clairement. Et pareil, j'ai mes présentations, mes trainings où j'ai 500 slides avec LibreOffice et ça tient. Et depuis que je donne des cours pour Pluralsight, on m'impose PowerPoint et ça ne tient pas. Donc c'est des trucs bien pour faire 10 pages, 15 D'accord. slides. Mais je vous avouerai que moi, je suis passé de l'autre côté, hein, où vraiment 500 pages, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, et Word ne suit pas. Et voilà, je vous parle de Word 2011. Donc, alors aujourd'hui, c'est peut-être mieux, mais je me dis que si Word en 2011, qui fêtait son 20e anniversaire, n'arrivait pas à faire ça. Voilà, donc moi, je suis très LibreOffice. J'aime bien des belles photos, donc je les paye. Je vais sur Shutterstock. J'achète des photos, c'est pas très cher. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais mes prises.
Je suis assez d'accord hein, sur l'histoire du Word qui tient pas la route. Nous, je sais qu'avec Nicolas, c'était pareil. On avait été imposé d'utiliser Word pour le bouquin sur Maven. Pareil, ça explosait toutes les 5 minutes. Si tu activais la correction orthographique, bon, alors là, c'était une catastrophe. Non pas qu'il y ait des tonnes de fautes, hein, mais, mais juste que ça plantait. Non. Et PowerPoint, effectivement, encore récemment, j'ai eu à bosser sur un PowerPoint original qui avait, je sais plus, 300 slides, un truc comme ça. Et pourtant, pas tant que ça d'images. Il y a quand même beaucoup de contenu, pas trop de graphiques, etc. Et pareil, ouais, ça tenait pas la chaise. Le Mac explosait avec PowerPoint avec. Enfin, c'est une catastrophe. Mais par contre, j'ai jamais eu la patience de faire plus de 3 slides avec OpenOffice ou LibreOffice. Donc, je peux pas dire que. Peut-être que ça tient la charge, mais je ne suis pas capable de faire 3 slides qui ressemblent à quelque chose avec ces outils-là. Donc, bon. Après, c'est une question d'habitude et les goûts et les couleurs, mais voilà. Non, moi, ce que j'utilise par contre pas mal pour faire des graphiques. Alors, même si aujourd'hui, y a tout ce qu'il faut normalement. Dans les PowerPoint et tout ça, j'utilise encore régulièrement parce que je trouve ça mieux fichu et plus beau. C'est pour faire du dessin type donc vectoriel avec des boîtes, des encores, etc., des encres, etc. C'est OmniGraphles ou Mac.
Ah, oui,
donc j'utilise ça pas mal quand j'ai des graphes à faire pour représenter des choses. Et avant, j'utilisais quand j'étais sous Windows, c'était Visio qui était aussi très très bien là-dessus. Voilà, donc ça c'est quand même les outils de base aussi pour faire des graphiques qui ressemblent à quelque chose, même si les PowerPoint ont des fonctions intégrées ou même Keynote, etc. Je trouve que ces outils spécialisés ont quand même beaucoup beaucoup plus de fonctionnalités et permettent de faire des choses beaucoup plus propres en termes de rendu. Voilà.
Ouais, ils ont des boîtes de plus haut niveau, par exemple, notamment on parlait des diagrammes de séquence, ouais, les choses voilà. Sont déjà là.
T'as tout, t'as ce qu'ils appellent les pencils, je sais pas en français comment on le dit, mais les pinceaux, les modèles de formes, etc., qui sont beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, t'as des galeries complètes, tu peux en télécharger, tu peux en acheter des gratuites ou pas, tu peux acheter des payantes. Voilà, tu as tout un tas de choix et tu peux vraiment faire des graphiques vachement plus évolués. Et comme tout est vectoriel, si tu fais correctement tes trucs, bah voilà, tu peux facilement réorganiser ton schéma sans avoir à tout dessiner, tout ça. C'est quand même pas mal.
Ouais.
Et GIMP pour la retouche de photos. J'utilise GIMP et là, c'est la fête.
Alors, Pixelmator. Pour ça. Ouais, t'avais cité C-Shore, Emmanuel.
Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les trois extrêmes. Donc, t'as GIMP qui est, en gros, du niveau de Photoshop, mais en X-Window, donc un peu bizarre. T'as C-Shore qui est vraiment très simple, qui est open source, en l'occurrence, avec une interface macOS native. Voilà, et Pixelmator, c'est ce qui est arrivé avec le, l'App Store, etc. Donc c'est un peu le renouveau de l'édition de photos, voilà, qui est arrivé post-Photoshop, qui se repose un peu sur ses lauriers, ou qui a un peu atteint le... De quoi d'inventer de supplémentaire pour.
C'est ça.
Pour et un autre outil aussi, donc on parlait vectoriel, visio, etc., pour faire là plus artistique que des boîtes, mais Inkscape. J'ai souvent utilisé par exemple pour faire du design de logo, des choses comme ça.
Ça, c'est pour générer des EPS ou des choses comme ça un peu complet. Le logo des cascodeurs, il est en Inkscape par exemple.
Ouais, des SVG et tout ça.
Pareil, c'est un X-Window, X11.
Ouais.
Et c'est quoi Camtasia?
Camtasia, c'est payant, hein, mais c'est un outil que j'aime bien pour faire mes cours, justement, où ça enregistre le bureau, ça enregistre le son, ça enregistre tout ce que tu fais sur ton Mac. Donc, tu passes des slides au terminal, etc., etc. Et puis... Une fois que tout est capturé, tu mélanges l'audio, la vidéo, tu peux zoomer, tu peux mettre, voilà, lorsque t'expliques un truc, tu rajoutes un effet sur ce que tu montres, et puis de manière très très simple. Et à la fin, ça te crée un point move, un point MP4. Donc, j'utilise pas mal lorsque je fais des cours online où ça enregistre et mes slides et ma voix et mes mouvements de souris ou pas. Terminal, il arrive à zoomer. Il arrive à zoomer. Donc, lorsqu'on est en terminal, il zoome sur le terminal, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal ça.
Et c'est il y a un autre outil, comment il s'appelle l'autre déjà, Coverflow, non, c'est ça, pour Mac aussi, qui est pas mal. En tout cas, pour faire voilà, des screencasts aussi pour nos projets open source,
ouais, voilà.
c'est intéressant aussi. On l'utilise aussi ça au boulot, pour faire après du voice-over, rajouter accélérer des parties qui sont lentes, ou couper, etc., mixer. Et ça me fait penser, il y avait un autre outil, alors je ne l'ai pas utilisé en fait, mais je l'avais déjà mentionné plusieurs fois. Il y a deux outils, donc là, plus pour capturer une sortie console, il y avait Askinema et un deuxième outil.
Ah oui, Askinema, très très bon ça. Ouais,
Askinema, ouais. Alors celui-là, je crois que c'est celui qui fait... Parce qu'il y en a un qui génère des GIFs animés et l'autre qui génère, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais ce n'est pas des images l'autre... Enfin bref, voilà, Askinema et un autre que j'ai oublié qui permettent de capturer comme ça la sortie d'une console, d'un shell pratique.
D'accord, et un truc qu'on n'a pas mentionné, alors qui n'est pas forcément bon pour faire beaucoup de slides, mais pour travailler à plusieurs sur le même slide, il y a quand même Google Docs, leur truc de présentation, qui est pas mal hein, quand même en termes de...
C'est un peu frustrant à utiliser, mais c'est vrai que ça fait le job.
Bah, l'avantage, c'est ça, c'est le travail collaboratif, ça marche quand même beaucoup mieux qu'un PowerPoint sous un Dropbox ou... Voilà, enfin, c'est... C'est toujours
Que Dropbox, il a beau te dire que t'as le conflit parce que Pierre a ouvert le même fichier que toi et il
merge, tu le fais à la main à la fin. Donc,
il en fait une copie, le merge après, il est pas facile.
C'est ça, le binaire.
Donc, en général, tu prends deux PowerPoint, chacun bosse, tu fais juste un canevas complet pour bosser, chacun bosse dans son coin et à la fin, t'assembles chacun des slides ensemble à la dernière minute.
Et là, chacun modifie les masters et c'est l'Adobe. C'est que du XML, hein. C'est pas difficile, hein, merde.
Ouais, c'est ça, PowerPoint, c'est que du XML. L'autre, je sais pas, comment il s'appelle, celui de Mac. Mais voilà, mais c'est vrai que non,
Keynote, c'est un zip et après je sais pas ce qu'il y a dedans.
Ouais, c'est un répertoire avec plein de trucs. Mais non, c'est vrai que voilà, ça, là-dessus, ça reste pour moi, je l'utilise quand même beaucoup dans le cadre du boulot. Ça reste voilà le truc le plus simple pour travailler à plusieurs sur une presse. Bon bah voilà, tu fais des slides sous Google machin, et puis bah voilà, au moins tu peux commenter, tu peux facilement éditer à plusieurs, voir ce que les autres font et tout ça. Mais par contre, tu feras pas des slides super beaux et propres comme tu peux faire voilà avec les outils comme Keynote ou PowerPoint. Mais bon.
Ouais.
Ou LibreOffice.
Dernier sujet, c'est documentation, site web, veille techno. Alors ça, c'est au niveau de la doc. Anthony, il mentionnait Dash.
Mm. Ah oui, parce que oui, documentation Dash. Bah, c'est vrai que quand on utilise Git, on est en offline dans le train, il nous manque toujours l'API, la Java doc, le truc, le machin. Et pour ça, Dash, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup, moi, Dash, parce que on peut avoir plein de Javadoc offline, plein de guides offline, et récemment, ils ont ce qu'ils appellent les sheets, je crois. Donc, on a, voilà, on a les commandes de VI, la table ASCII, les commandes Git. C'est plutôt pas mal. Donc, moi, je suis assez fan de Dash, ça, mais je crois que c'est que sur Mac.
Oui, et ça prend pas mal d'espace aussi, assez vite. Donc, si vous avez, vous dites, ah oh, tiens, je ferai peut-être du Rails, ensuite, tiens, un jour, je ferai peut-être du Java E, et donc, ça amène quelques mégas assez vite, et du coup, moi, j'étais revenu un petit peu en arrière, mais moi, au final, je crois que je faisais pas assez de train pour l'utiliser, je crois. Mais je conçois que ça puisse être utile pour un sous-ensemble de la population. Mm. Markdown, c'est quoi ?
C'est tout simplement un éditeur de fichiers Markdown, mais en mode client lourd avec preview. Quand t'es pas dans un projet, alors après moi souvent j'utilise, je suis dans de l'IntelliJ, donc j'ai ma preview, mon machin, etc. Mais c'est vrai que des fois j'ai des trucs qui sont pas versionnés ou qui sont pas du tout dans des projets type IntelliJ, donc un outil pour éditer des fichiers Markdown et avoir un peu la preview de souterrain, voilà, moi j'utilise Markdown. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais bon, celui-là est simple et fonctionne bien. Je crois que ce qui lui manque le plus à celui-là, c'est quand même la partie ce qui me manque, c'est la partie vue projet, donc quand tu as plusieurs fichiers, etc. Ça te fait que de la vue fichier par fichier, pas quand tu en as plusieurs.
Voilà. C'était un peu comme Mou. Mais Mou devient payant, je crois.
C'est ça, ouais, je crois.
Alors voilà, que Markdown est open source. Mmh,
ça doit être ça, ouais.
Mou devient payant, tiens.
Ouais, en version, je ne sais plus quoi, 1.0 ou 2.0, j'en sais rien. Il va devenir payant, je crois. Bon, après, c'est pas qu'on n'aime pas les trucs payants, hein, mais...
Non, mais ça dépend du prix.
On utilise, c'est vrai que ça peut être intéressant, des trucs open source.
C'est une de mes résolutions de l'année. Donc, acheter des outils, j'y arrive, le one shot. Acheter des services que tu payes par mois pour que 5 dollars, que 7 dollars, que 9 dollars, j'ai plus de mal. Et pourtant, il y en a qui sont vraiment essentiels à mon flow de travail ou de pas travail. Donc, je pense que je vais essayer de mettre un petit budget de côté pour me dire... je vais utiliser, payer Evernote, par exemple. Même si j'en ai pas besoin, la version basique me suffit. Mais à un moment, il faut...
Par exemple, tiens, il y a un petit service. Alors, c'est pas de l'informatique, hein, mais un petit service que j'ai trouvé super pratique. Ça s'appelle Tapirik. Et en fait, pour les coureurs, donc on utilise alors celui qui a une montre GPS Garmin, il va utiliser Garmin Connect. Après, il y en a qui courent avec leur téléphone, ils vont utiliser Runkeeper. Après, ceux qui aiment bien ou qui font du vélo aussi, ils vont plus utiliser Strava et tout ça. Et en fait, Tapirik, Tapirik, c'est un petit service en ligne qui fait la synchronisation entre tous ces services-là. Donc Runkeeper, Garmin, Strava, Endomondo et je ne sais plus trop, encore plusieurs autres. Et en fait, donc, une fois qu'on connecte tous nos comptes dessus, en fait, il les synchronise. Mais voilà, à chaque fois que je courais, il fallait que je pense à aller dans le site pour dire ah oui, fais-moi la synchronisation et tout. Et en fait, tu peux payer pour que ça se fasse automatiquement à intervalles réguliers. Et en plus, tu payes ce que tu veux, quoi. Alors, je ne sais plus, ils proposaient...
Mais c'est rien, c'est genre 2 dollars par an.
Ouais, c'est rien, c'est ouais. Alors je sais plus, je crois ils proposaient 2 dollars par an, moi je me suis dit bon, c'est quand même utile, ben, j'ai mis 5 dollars ou un truc comme ça, je sais plus. C'est pas grand-chose, mais ça ne me fait que gagner 10 secondes à penser à aller sur le site et à cliquer ou à me reconnecter parce qu'il a oublié mon login ou un truc comme ça, mais voilà, c'est un petit service tout bête, mais qui est super utile et qui est devenu transparent parce que j'ai payé, en fait.
Tu payes pour qu'il te pompe tes données automatiquement, c'est ça ?
Voilà, ouais.
D'accord. Mais non, ça, après, je comprends genre le truc. J'avais un autre service équivalent à celui-là, mais qui a fermé justement, qui était gratuit. Je ne sais plus comment il s'appelait, qui permet de faire la synchro, pareil, entre les Fitbit, Runkeeper, machin, etc. Ah ouais. Je sais plus son nom, mais justement il a fermé. Il était gratuit, bah justement ça a pas marché. Il a fermé. Et dans les trucs pas chers, alors moi vu que justement je suis un grand adepte du sport, mais surtout dans le canapé. Non, on va pas en venir à ce que vous pensez. Non. Je regarde pas mal de séries, de choses comme ça, et c'est vrai que ça soit Netflix ou les autres services dans le genre, ça peut être pratique des fois de ne pas être d'être virtuellement pas chez soi. Et donc pour ça on utilise souvent un VPN, et moi ce que je me suis offert c'est un abonnement à un VPN, et compte tenu des temps actuels c'est toujours utile, et il y a des services donc genre vpn.sh, je sais qu'ils font des offres régulièrement, et là j'ai acheté un VPN chez vpn.sh, ça, c'est pareil, c'est, je sais plus, c'est une somme modique, ça devait être 3 livres par an, donc ça doit faire 5€ par an pour avoir un VPN qui te donne une sortie un peu partout. Donc comme ça, bah, tu peux utiliser ton Netflix et voir le catalogue américain ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est mal, c'est pas bien, c'est machin.
Comment tu fais pour ta télé ? Parce que j'imagine sur même ta tablette, donc tu installes le VPN et hop, t'y passes.
Voilà, c'est ça, oui. Pour la télé, j'ai pas essayé, je te dis. Je te vois sur la Freebox. Je sais que je peux configurer le VPN, mais uniquement, je pense, pour le truc de téléchargement, mais j'utilise pas, bien sûr. Je ne fais pas de téléchargement, mais
de toute façon t'as pas de bande passante
non plus ça aide non, sur la télé j'ai pas essayé, j'ai pas regardé, quoi, j'en sais rien, j'ai même pas regardé dans les options
avancées. Ça m'intéresse, moi j'utilise l'Apple TV pour Netflix, ouais. Et ça m'intéresserait de voir un peu le catalogue américain, parce que le français il est bien, mais bon, pas au niveau.
Moi je lis Netflix avec le player de Blu-ray Samsung BD, je sais plus trop quoi, et j'ai pas regardé en fait j'ai pas essayé lui de le configurer derrière le VPN, par contre enfin je regarde, je sais pas, si ça se trouve il y a peut-être les options dans les parties réseau avancé, mais effectivement par contre tablette etc, ouais, tu les as, donc tu peux facilement switcher sur les autres ouais. Catalogues.
Et pour revenir à Tapirik, donc le plus simple c'est vous tapez je sais pas Runkeepers Strava et Sync et vous allez le trouver.
D'accord.
Et si vous oubliez un i, vous trouvez sur la redoute avec une peluche, donc
c'est la mort à trouver à chaque fois. Au début quand justement je devais y aller dessus et je me rappelais jamais d'une fois sur l'autre le nom du truc et j'oubliais un i, je sais
pas. C'est là où c'est le génie du marketing, le mec qui met un nom impossible.
Bref. Mais tu le retrouves.
Ouais, parce que moi, par exemple, ce que je trouve le plus pratique, c'est effectivement Runkeeper sur mon téléphone. Mais par contre, Strava, ce qui est génial, c'est qu'il dit, bah, pour tel segment, t'es en compétition avec tous les gens qui ont fait tel morceau de telle rue ou tel cercle autour d'un lac ou etc. Et donc, c'est marrant de se comparer même à soi-même dans le passé sur un morceau de la course. Parce qu'en général, on fait varier un peu les routes, quoi. On fait pas toujours la même. Et donc c'est marrant de pouvoir comparer des morceaux comme ça, je trouve ça assez génial, et je crois que c'est les seuls qui fassent ça. Mais Strava en termes d'appli, ils sont quand même plutôt orientés vélo, et du coup voilà, c'est pour les coureurs, c'est un peu moins bien.
Bah ouais, c'est quand même pas mal. Alors même course entière et pas que segment, par exemple, ils retrouvent toutes les courses qui sont proches. Donc par exemple, ça m'est arrivé des fois où de finir un peu plus tôt ou d'aller 100 mètres plus loin, et ils retrouvent quand même ma course. Et du coup, je peux quand même bien facilement les comparer. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant de voir comment tu évolues au cours du temps, etc. Non, c'est top.
Voilà, sinon, au niveau d'augmentation de projets techno normaux, moi, j'utilise de plus en plus donc AskiDoctor et notamment le Chrome, le plugin Chrome AskiDoctor, je sais pas comment, qui permet d'avoir une vue live du truc. Donc, j'édite en Vim et puis j'ai ma vue live qui s'affiche sur Chrome, donc ça c'est assez sympa.
Le Enable Live Reload, là c'est ça, c'est le petit plugin Chrome qui permet de rafraîchir la page lorsque le fichier bouge.
Non, c'est pas ça.
Non,
c'est
pas ça.
Qui s'appelle Doctor.js Preview.
J'avais installé un truc pareil, ouais, dans ce genre-là, pour faire les previews automatiquement, t'ouvres ton truc et ça te fait l'affichage.
Ouais.
C'est pour ça
Live Reload, c'est un outil plus générique qui permet de dire.
Oui, il reload dès que ta page change, en fait.
Il y a un serveur, voilà, qui va écouter les changements et qui va pousser dans le navigateur un ping. Et du coup, le navigateur va rafraîchir la page. Là, c'est un petit peu, c'est plus spécifique à AskiDoctor, en fait. Parce que ça fait le rendu AskiDoctor dans la page directe.
Ouais,
sans avoir à installer le Ruby, ce que tu veux. Ce qui est bien, des fois. Oui, on n'a pas parlé des builds, mais on l'a sauté.
Gradle.
Voilà, Gradle, Maven. Mais quand vous êtes
Maven, qu'est-ce que tu veux?
Quand vous êtes sous Ruby, c'est plus le bordel. Donc moi, en ce moment, je suis plutôt Reg, Bundler et Docker. Il y en a qui sont Reg, Bundler et RVM. Donc Reg, c'est l'équivalent de Gradle. Mm. Bundler, c'est l'équivalent des dépendances en fait que vous voulez utiliser et les télécharger.
Ouais.
RVM, c'est pour isoler, c'est le Java Home en fait, mais ils ont fait un truc plus compliqué.
C'est même plus que ça. T'as la même chose, ça te permet effectivement d'isoler ton environnement, tes repos, etc. Parce que voilà, sinon c'est une plaie et tu plantes tout. Je vois pas comment on peut utiliser du Ruby de toute façon sans utiliser RVM ou son ancien ancêtre, je sais plus comment il s'appelait.
Ouais, il y en a un autre, ouais. Ou Docker, parce qu'en fait, l'autre problème de RVM, c'est qu'il y a certaines extensions qui ont des morceaux natifs, et du coup, qui doivent être compilés, et ça marche jamais sur votre OS, ou c'est jamais la bonne version, ou alors vous utilisez deux projets Ruby qui utilisent pas la même version native, et ça fout la zouille. Donc au final, maintenant, moi, j'utilise Docker avec une install Linux que vous utilisez Fedora, mais vous pouvez utiliser autre chose. Et après, ça installe le rec qui va bien, le bundler, ça télécharge le truc. Si ça fout la zouille au niveau des dépendances natives, c'est pas grave, c'est dans mon image Docker, et voilà. Et dernier point, quand on parle de build, il y a toujours lancer les tests, regarder, faire des petits trucs avec Git, etc. Donc j'utilise Tmux pour multiplexer mon terminal et je les configure. Donc j'ai un truc qui dit démarre l'environnement de dev Hibernate. Et puis j'ai ça c'est la partie code, ça c'est la partie Git en gros, et ça c'est la partie build. Et du coup, ça c'est la partie je lance les bases de données, et du coup j'ai ces quatre Windows qui sont multiplexés et qui sont démarrés automatiquement quand je veux travailler là-dessus. Donc ça c'est pas mal.
Ah oui, au lieu d'avoir des tabulations en fait, il divise l'écran, c'est ça?
Ouais. Alors c'est plus, je peux avoir ce que l'équivalent de tes tables, ils appellent ça des fenêtres, et il y a l'équivalent de séparer l'écran en plusieurs morceaux et puis de zoomer sur un morceau. Ce qui est pas mal aussi, en fait, parce que des fois, tu zoomes sur un morceau, puis tu reviens et t'as la vue, tes logs, tu vois, qui sont en train de défiler pendant que tu lances tes scripts ou ce que tu veux.
Dans ce type d'outils, moi, j'utilise beaucoup pour quand je fais des commandes sur des serveurs à distance, etc. Je crois que j'en avais déjà parlé, c'est Screen, l'outil
c'est
Screen.
C'est l'ancêtre de Tmux, en gros.
Ouais, voilà, qui est plus basique, mais qui fait le job et qui permet aussi, donc, comme toi, de découper un écran en plusieurs, d'avoir la sécession et surtout de retrouver sa session si tu perds ta connexion SSH ou quoi que ce soit. Ouais. Tu reviens, tu as la suite de tes logs et ton programme tourne toujours, etc. Sans perdre ce que tu étais en train de faire. Ouais.
Et l'autre avantage de Tmux, c'est que c'est scriptable. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai un petit script bash qui dit démarre telle fenêtre qui correspond
aussi avec Screen de mémoire.
Oui, j'imagine. Mais je veux dire, par rapport à un iTerm où je pense que tu peux enregistrer ces notions de session, mais les gens ont tendance à pas le faire.
Ah oui, non, oui, c'est certain.
Je l'ai fait une fois pour toutes et
ça te démarre tes X sessions avec une dans tel répertoire, tel environnement, configuré ainsi, voilà, etc. etc. Ouais, tout à fait.
Et pour revenir à Doc, site web Veil Techno, donc moi j'utilise beaucoup Ostruct, donc Mêlée à ASCII Doctor. Byword, c'est sous iOS, ça me permet d'éditer dans mon bain, de collecter les news des cascodeurs et de le mettre dans un markdown que je mets après dans le wiki XWiki. J'utilise Feedly pour suivre certaines news, donc RSS, je sais pas,
ouais, pareil, Feedly aussi, ouais,
qui était pas né quand on arrêtait de les utiliser, mais voilà.
C'est vrai, mais est-ce que ça nous manque, les RSS, aujourd'hui?
Moi, ça me manque, enfin conceptuellement ça me manque.
Ouais, ça, je suis d'accord que, enfin, ça, oui et non, ça dépend. Et ça avait l'effet très pervers de t'abonner à plein de trucs que finalement t'avais besoin de lire une ou deux infos.
Ouais.
Mais c'est vrai que des fois sur certains
totalement
sites,
différent de Twitter. Hein.
Oui, c'est c'est vrai. Je suis d'accord. Non, mais je suis vraiment d'accord. C'est un RSS moderne, Twitter. Mais sauf que voilà, t'as des sources variées, tu mélanges, etc. Mais alors par contre, t'as un niveau bruit qui est bien supérieur au RSS à l'époque où t'avais ciblé les blogs qui t'intéressaient, etc. Ouais.
Et puis, moi, j'utilise Instapaper pour dès que je vois une news que je veux lire plus tard.
Et moi, Pocket.
Et toi, Pocket. Et les deux sont bien, pas de problème. Je crois que les deux permettent de pousser vers le Kindle si vous avez un Kindle. Malgré tout, je m'aperçois que je le lis maintenant beaucoup même sur l'écran du téléphone ou de la tablette. Parce que voilà, c'est le rendu est vraiment super beau. Et bon, en général, un article, ça se prend pas non plus tant de temps que ça à lire. Donc voilà.
Ah, c'est surtout ouais, quand, enfin, Pocket, je suis dans une salle d'attente, dans les transports, à des endroits où j'ai pas forcément le net, le fait qu'il puisse télécharger les articles, c'est super pratique ça quand même. Tu t'as pas l'impression de perdre ton temps quoi, à attendre, je sais pas quoi, un docteur.
Mais il y a Tetris pour ça.
Ouais.
Candy Crush.
Ou Candy Crush.
Armor Saga perso.
Ouais, c'est ça.
J'ai jamais testé moi, tiens.
J'avais essayé Candy Crush, mais au bout d'un moment, ça me saoule vite, moi, ces trucs-là.
Ouais. Voilà, il y a des choses qu'on a oubliées. Bon, on a oublié toute la partie Continuous Integration, mais c'est un peu plus des outils d'équipe.
Ouais. De toute façon, il n'y a que Jenkins.
C'est vrai qu'on n'a pas... Je citais exprès TeamCity. C'est vrai qu'on n'a pas couvert cette partie-là. Artifactory, Bintray, TeamCity, c'est des outils qu'on utilise sur le projet Groovy, par exemple.
Jira, Confluence, enfin voilà, on peut encore aller très loin sur la liste d'outils qu'on utilise.
Mais en tout cas, conclusion peut-être de cet épisode, c'est qu'il y a une tétrachier d'outils qu'on utilise.
Oui.
Et des en commun, des complètement différents des fois, c'est fou. Hein.
Mais ce que je trouve marrant, c'est que moi, il y en a plein que j'ai pas cité parce que au final, je les ai pas. Par exemple, j'avais cité Bee, qui était une appli qui permettait de voir en desktop les événements Jira. Bon, bah, au final, un jour, j'ai relancé la machine et je l'ai pas relancé. Et du coup, voilà, il a disparu. Donc, il y a, disons que c'est assez filtré. Il y a plein d'outils. Toujours, j'en ai 15, 20% de plus que j'utilise régulièrement. Mais il bouge parce que, bon, finalement, j'ai essayé. Puis, c'est pas utile et je passe à autre chose.
C'est vrai.
Mais ouais, il y en a beaucoup.
Et il y a vos outils à vous. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode avec un crowdcast. Uniquement avec des petits outils, une minute
ou ça.
Allez sur lescascodeurs.com/crowd comme la foule, C-R-O-W.
Emportez par la foule. Okay.
Voilà, et casting, C-A-S-T-I-N-G, crowdcasting, et vous allez savoir comment le faire, où envoyer, comment enregistrer, comment nous contacter, tout ça. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, donc ça serait sympa.
C'est vrai.
Voilà. Bon, ça, je pense qu'on a fait le tour là quand même globalement.
Oh ouais.
Deux heures d'épisode et d'outils. J'espère que vous l'écoutez en accéléré.
Même pas 1h30, tes mauvaises langues.
Non.
1h52 là.
Ouais, c'est 1h52 dans.
Arnaud, t'es en train de dire que tu as perdu tes 30 minutes du début, c'est ça?
Ah, je sais pas. Moi, l'Audacity me dit 1h30, donc je ne sais pas.
Ah, bon, bah, c'est pas bon, ça.
J'ai très peur.
T'avais pas mis le mode où quand tu parles pas, ça coupe?
Non, j'ai rien touché. Enfin, c'est le même que tout le temps.
Oups.
J'ai très peur.
Si tu m'as fait un cadeau pour 2016, j'apprécie pas du tout.
C'est ça. Je parlais tout à l'heure de l'enregistrement.
Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Voilà. Bon, on va se déconnecter puis on va régler nos problèmes en interne.
Bonne année les gars.
Allez, bonne année à tout le monde. Et puis à la prochaine. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.